Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, passez un bon moment sans pour autant renoncer à se cultiver, c'est l'ambition de l'équipée sauvage, votre nouveau rendez-vous. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes de la rédaction se défient. Qui vous proposera la chronique la plus étonnante, l'histoire la plus édifiante, celle que vous aurez envie de raconter ce soir à vos proches pour les départager? Vous, bien sûr, via Twitter et Facebook, et aussi notre invité d'honneur du jour. Bonjour Bruno Salomon.
Bonjour, comment allez-vous?
Tout va pas mal. Inoubliable Igor Dosgore, encore plus inoubliable.
Je suis déjà collector.
Il n'a rien perdu, sa verve. Encore plus inoubliable Denis Boulet dans la série à succès Fais pas ci, fais pas ça. Vous revenez avec un spectacle intitulé Le show du futur. On va en parler. La tournée démarre dans quelques jours. On évoquera aussi votre roman Les Misophones au Cherche Midi, un livre où vous évoquez un trouble neuropsychique rarement diagnostiqué, mais dont on est comme vous nombreux à souffrir, la misophonie. Comment on peut résumer la misophonie en deux mots, Bruno?
On va dire que c'est des gens qui ont une réaction anormale à des sons totalement ordinaires.
Littéralement, c'est la haine du son, mais plus spécifiquement donc de certains sons de la vie quotidienne, clic d'un stylo, touche d'un clavier d'ordinateur, ou encore collègue mastiquant bruyamment. Le moment est donc venu de vous présenter ma complice Eva Rock. Le cauchemar des misophones, hein, c'est pour ça qu'on l'a placée de l'autre côté de la table, le plus loin de vous possible. Pourquoi? Eh bien parce que travailler avec elle et surtout à côté d'elle implique une tolérance auditive élevée, notamment l'année dernière quand on présentait La Petite Matinale et qu'elle venait en studio avec ses cracottes. Parce que oui Bruno,
la cracotte,
je vous le dis d'emblée, Eva est une femme qui aime faire crac-crac.
Pardon, je suis en train de manger ma biscotte. Ça fait du bruit?
Tu m'étonnes que ça fait du bruit, un tout petit peu. J'étais en train de porter les news, tu vois, l'actu, la politique. Bruno Salomon, Eva Rock, Eva Rock, Bruno Salomon. Bruno, le temps que vous enfiliez les bouchons d'oreilles qu'on a prévus pour vous, je vous présente également nos deux premiers compétiteurs aujourd'hui. Nicolas Caron, notre expert littérature. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Témoin effaré de ce qui est en train de devenir l'affaire Yann Moix, vous vous posez cette question à la fois éthique et juridique. Peut-on impunément parler de ses proches dans un roman, c'est ça?
Exactement, et quel problème ça peut poser juridiquement?
Par exemple, moi, dans le livre sur lequel je travaille, Ma vie sous le joug d'Eva Rock, chronique d'un harcèlement en entreprise, vous me conseillez de changer le nom.
Oui, parce que là, vous tombez sous le coup de la loi, je vous expliquerai ça tout à l'heure.
Oui, mais surtout, vous avez tombé sous le coup de la loi pour harcèlement.
Calmez-vous, Eva. À vos côtés, il est passé tout près de la victoire lundi, Axel de Tarlé, notre expert éco est de retour, plus remonté que jamais. Axel, avec quel sujet comptez-vous vous refaire la cerise?
Avec la distribution des distributeurs automatiques de billets.
La distribution des distributeurs automatiques, ça commence mal.
La disparition. J'ai dit la distribution.
Oui, vous avez dit la distribution.
Ça commence bien.
Un point en moins déjà, allez hop. Voici pour le programme L'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, L'équipe est sauvage.
Le comédien et humoriste Bruno Salomon nous accompagne. Rentrée chargée pour vous Bruno avec ce nouveau one man show intitulé Le show du futur, où vous imaginez une émission de télévision du futur, mais d'un futur proche qui interroge les dérives actuelles. Est-ce qu'on peut dire que c'est Black Mirror qui aurait bouffé un clown? Je suis très content de cette formule, alors dites-moi oui. Dites-moi oui.
J'adhère.
Voilà.
Oui, c'est Black Mirror version comédie, on va dire, parce que ça m'a énormément inspiré, Black Mirror.
Vous avez...
Mais oui, on est dans un futur proche, un futur déjà là, comme font Black Mirror dans leur scénar, c'est déjà là, quoi, en fait.
Et donc, vous vous basez sur les dérives actuelles que vous sentez, que vous percevez, vous poussez le curseur un peu plus loin et vous obtenez un show complètement délirant, c'est ça?
C'est un peu votre show que c'est. C'est un animateur mégalo avec des chroniqueurs à sa
botte. C'est ma vanne d'après. On est vraiment sur la même longueur d'onde avec Bruno. Et donc, pour faire plaisir à Eva, vous démarrez la tournée à Nice, hein, c'est ça, le 20 septembre.
C'est vrai?
Oui, c'est ça.
C'est spécialement pour vous.
Ça va vous porter bonheur, Bruno. Oui, évidemment.
Suivrons Marseille, Rouen, jusqu'au Palais des Glaces à Paris à partir du 23 janvier 2020. C'est un spectacle où vous incarnez tour à tour des personnages différents. Comme le précédent, parce que dans le précédent, il y avait 43. C'était une sorte de record du monde.
Là, j'ai décidé de ne pas les compter parce que sinon, on me sortait systématiquement le chiffre. Et je me dis, bon, l'idée, ce n'est pas de faire un record, c'est vraiment de faire visualiser aux gens en fait, tous ces personnages. Et moi, j'oublie, à un moment, j'oublie totalement que c'est moi qui l'ai fait. J'ai l'impression que je suis plusieurs. Voilà,
vous êtes peut-être plusieurs dans votre tête.
D'ailleurs, je suis plusieurs. Là, je ne sais pas qui vous parle. Non, mais c'est assez étonnant. C'est ce que me disait Gabor Assoff, mon metteur en scène. Il me dit, si toi tu le vois, nous on le voit aussi. Et c'est l'idée, c'est de faire voyager des gens spirituellement. Oui.
Spirituellement. J'adore sa voix. Alors justement, ce qu'on aime chez vous, en tout cas ce que j'aime chez vous, Bruno Salomon, c'est que vous avez toujours tracé votre sillon humoristique loin des modes, des tendances du moment. La grosse tendance évidemment des années 2000, c'était le phénomène du stand-up, où les personnages s'effacent pour laisser place à l'humoriste qui nous raconte un peu sa vie. Vous avez toujours eu des personnages. les personnages, l'histoire avant tout. Le stand-up, ça n'a jamais été votre tasse de thé?
Non, je trouve que le stand-up à l'américaine, j'adore, je suis fan. Vraiment, c'est Ricky Gervais, enfin, Louis C.K. et tous. Enfin, je suis fasciné par le flow qu'ils ont, mais en français, je trouve que ça marche moins bien.
En français, ça sonne moins bien.
Je trouve que ça, non, mais c'est comme les chansons, c'est plus dur à faire sonner. La langue française, c'est un gros mérite, hein, ceux qui arrivent à faire sonner le français. Et pour moi, ça doit être aussi musical, la comédie.
Donc, à travers les personnages, vous y arrivez plus facilement, vous avez les sensations d'y arriver plus facilement.
Les personnages, ouais, j'ai l'impression que ouais, je peux mettre des vannes et en même temps, je peux mettre un flow. Quoi.
Oui, mais à tel point que, alors je parle d'Euphorique, évidemment, qui était votre
précédent spectacle.
On n'est pas, voilà, c'est pas du stand-up, c'est un truc à part. On a l'impression d'être plus du côté de Molière, avec la dimension comédie, mais c'est vraiment ce qu'on appelle le seul en scène, mais dans son terme le plus noble,
le plus noble,
je trouve.
Voilà, tout à fait, Eva.
De ce que je trouvais au théâtre.
Moi, ce que je voulais, c'était faire un hybride. C'est un mélange de one-man show, de stand-up aussi, parce qu'il y a des moments où je parle au public, et aussi de seul en scène, mais en racontant quelque chose de drôle.
Alors, une petite anecdote que j'ai racontée à Bruno juste avant qu'on commence l'émission, mais le soir où je suis allée le voir, il y a une dame qui s'est levée pour aller aux toilettes, et donc Bruno a arrêté le spectacle et on a attendu qu'elle revienne des toilettes pour continuer. C'était
non, mais
un moment incroyable.
Les gens se lèvent, ils vont aux toilettes,
mais c'est scandaleux. Le show du futur, c'est le titre de son nouveau spectacle, bientôt près de chez vous. Bruno Salomon passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue, 2 heures pour comprendre le monde sans oublier d'en rire, en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 qui désormais chaque après-midi se disputent le prestigieux titre de chroniqueur du jour. Dans un instant, c'est le monsieur livre d'Europe 1 qui va entrer en piste. Nicolas Caro fera-t-il mieux que Mathieu Charrier, le monsieur cinéma de la station, hier face à notre invité Grand Corps Malade?
Je ne sais pas si vous êtes fans tous les deux de Louis de Funès, Mehdi Idir et Grand Corps Malade.
Ouais.
Ça va m'aider alors.
Ouais, ça devrait pas être très difficile.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Vous écoutez Europe 1, nous sommes en compagnie de Bruno Salomon, venu nous présenter son nouveau spectacle, Le Show du Futur, et son livre, Les Misophones, du nom de ce trouble qui fait qu'on ne supporte pas certains petits bruits agaçants de la vie quotidienne. Attendez, je vérifie un truc sur internet vite fait là. Ça va Bruno?
Ça va et vous?
Ça vous fait rien ces petits bruits?
Ça me fait rien. Non. Non,
vous avez eu un mouvement de recul?
Oui, vous avez eu un petit mouvement de recul quand même.
Non, pas du tout. Non. Je me demandais comment il faisait ce bruitage. Les effets spéciaux sont incroyables.
À ma gauche, il est prêt à en découdre. Je vous présente Bruno, l'homme aux 7 T dans Télérama. Nicolas Caro, notre expert littérature, que vous retrouvez chaque dimanche.
Non.
9T, autant pour moi Nicolas. L'homme que l'on retrouve chaque dimanche de 14h à 15h dans La Voix et Livre, vous noterez la qualité du jeu de mots, une émission littéraire digne des plus belles heures d'Apostrophe ou du Cercle de Minuit, même si Nicolas, par rapport au Cercle de Minuit, vous avez quand même pris un peu plus de liberté sur la programmation.
Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un livre au titre extrêmement subtil.
Gangster Prout, c'est la suite en fait des aventures du fantôme qui pète. Le fantôme qui pète et ses amis, Prouty, Prouta et Rototo, règlent tous leurs problèmes en utilisant des ruses bien senties.
Ça marche?
Ça cartonne, je dirais même que ça pétarade.
Évidemment, sans trucage, hein, je signale que c'était
c'est
un vrai invité.
C'est Victor Dolan et sa chronique jeunesse.
On l'embrasse. Maintenant que je vous ai bien savonné la planche, mon cher Nicolas, je vous laisse la parole. C'est de la polémique Yann Moix que vous êtes parti pour nous étonner.
Eh ben oui, vous vous souvenez, Yann Moix a écrit son roman, c'est bien écrit roman sur la couverture, où il parle des sévices qu'il a subis pendant son enfance. Son père et son frère sont montés au créneau pour dire que c'était pas vrai. Son frère a même dit que c'était Yann Moix le bourreau et pas la victime. Et moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'il y a eu d'autres exemples? Alors, il y a eu plein d'autres exemples. L'année dernière, déjà seulement, le roman d'Emily Frech avait fait polémique. Elle racontait l'histoire, toujours avec roman marqué sur la couverture, d'une famille recomposée qui ressemble étrangement à la sienne. Elle parlait notamment des relations de Séverine Servat de Rugy, la femme de François de Rugy, avec le fils que Séverine a eu avec Jérôme Gage, lui-même qui est devenu le compagnon d'Emily Frech, l'auteur. Vous me suivez?
Non,
presque. Emily Frech décrit le personnage du fils comme un monstre.
Et l'auteur, elle a répondu quoi?
Que c'était que de la fiction. Elle a changé en tout cas les noms, même si elle avait puisé un peu, oui, dans sa propre vie, comme chaque écrivain. Évidemment, c'est toujours compliqué ces histoires. Quelle est la part de vrai et de faux? C'est difficile à dire. Et puis, râler, ça revient quand même à demander l'interdiction d'un livre. Ça, c'est
ça,
quand même un sacrilège un petit peu. Sauf qu'il y en a d'autres qui se sont offusqués. Patrick Modiano lui-même, prix Nobel de littérature, il avait été très choqué par un roman de Marie Lebet intitulé « Oublier Modiano ». au moins le personnage est clairement identifié.
Ah oui, là, au moins c'est frontal.
Elle parle notamment de la mort du frère de l'écrivain et surtout elle prête des sentiments à Modiano au moment de la mort de son frère. Ça, il n'a pas du tout apprécié, l'aide d'avocat, etc. PPDA aussi avait eu des problèmes. Dans Fragments d'une femme perdue, il racontait son histoire d'amour et sa rupture avec une femme et il publiait des lettres qu'elle lui avait envoyées. Christine Angot aussi, on s'en souvient. Bon, il y a eu plein d'affaires Christine Angot, mais notamment une pour son roman Les Petits. On pourrait citer une vingtaine comme ça d'exemples. Et la loi est pourtant assez simple. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit d'être diffamatoire et de raconter vie privée, l'intimité de votre proche. Mais bon, si vous voulez vraiment balancer, alors là, il faut faire attention, il faut les anonymiser. C'est ce que m'a expliqué, parce que j'ai enquêté, parce que je vous aime beaucoup Mathieu, Emmanuel Pierra, avocat et grand spécialiste de la question.
Si vous écrivez en donnant le nom de famille de vos parents, de vos proches, en ne maquillant pas leurs traits de caractère, leurs traits physiques, si vous décrivez leurs cicatrices et qu'ils sont identifiables par leurs proches, par la rue, par la communauté, par le Rotary Club, par l'église, les gens qu'ils fréquentent, cela pose un problème. Si en revanche, vous vous emparez de votre réalité mais que vous la transformez, vous changez la ville, vous changez les âges, vous changez la profession, alors vous pouvez faire une œuvre de romancier qui s'inspire comme tout romancier du réel, sans pour autant porter atteinte aux droits des autres et sans être répréhensible aux yeux de la loi.
Alors d'ailleurs, on précise qu'Emmanuel Pierra est l'avocat du frère de Yann Moix. Vous avez des exemples, Nicolas, de génies qui ont frôlé la condamnation ou qui ont été condamnés ?
Plein. Flaubert qui parle d'une femme qui a réellement existé dans Madame Bovary. C'était un fait divers. Elle s'appelait Delphine. Delphine Couturier.
Mais il n'a pas été condamné en l'occurrence,
non,
Flaubert.
Non, non, non.
D'accord.
Dans Les Misérables, Victor Hugo n'a pas été condamné aussi, mais il a quand même choisi le nom de Thénardier en s'inspirant directement du député Thénard avec qui il n'était pas d'accord sur la question du travail des enfants. Et du coup,
c'est pas mal, ça.
Il fait quand même de ce nom l'archétype de ce qu'il y a de plus mauvais dans l'humanité pour des siècles et des siècles. C'est vachement dur. Simenon lui a été condamné en revanche pour pédigré. Il racontait son enfance et certains personnages se sont reconnus. Il y a eu procès donc, et les éditions suivantes ont été expurgées carrément. Mais la vérité c'est que tous les romanciers, absolument tous les romanciers s'inspirent de la réalité. Vous pouvez me citer n'importe quel exemple. Je peux vous dire que c'est inspiré de la réalité. Bruno Salomon en tête avec Misophone.
On sert toujours de soi, de toute
mais
façon. Quand on
de quoi vous voulez vous inspirer,
on
sinon
on peut pas s'inspirer d'un arbre ou d'un abribus. Enfin, je veux dire, à un moment, on se sert de...
Ou un abribus dans lequel on a vécu. Ou...
C'est ça, mais il faut toujours que c'est un lien avec nous. C'est un proche, etc. Mais après, c'est aussi le coup de Thénard. On est presque dans la parodie, quelque part. On se moque. Mais
oui,
le chinois, c'est que
parole.
Les romanciers n'ont pas le droit de balancer des trucs sur la vie privée, mais par contre,
c'est
les journaux people, ils y vont à foison et
on
leur
donne. On peut les attaquer aussi.
C'est étonnant.
Emmanuel Pierra est un grand spécialiste de la défense des people, justement contre la presse people.
Et pour faire une belle conclusion et me la jouer un peu, je voudrais citer Boris Vian avec cette très belle phrase. Tout est vrai parce que je l'ai inventé.
Magnifique.
Ah, c'est magnifique.
C'était Nicolas Carreau.
Ah,
moi, j'ai trouvé que c'était très complet. Hélas, à vos côtés, je doute que votre concurrent du jour ait trouvé ça aussi complet que moi. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Axel de Tarré, une remarque peut-être.
Non, une question vache. Non, non, non. D'abord, moi, on m'avait annoncé une chronique sur Yann Moix. Je trouve que ça s'éparpille. On parlait de Yann Moix. Donc, moi, en bon élève, j'avais préparé une question vache sur Yann Moix. Alors, je vous la pose à vous, Nicolas Carreau,
compris,
le spécialiste
vieux.
De la littérature à Europe numéro 1. Yann
Moix.
Alors, je pose ma question. Yann Moix a été connu grâce au prix Goncourt qu'il a obtenu en 1996. Mm-hmm. Comment s'appelait ce livre qui lui a valu le prix Goncourt ?
Je dirais Renaissance chez Grasset.
Perdu, ça c'était le prix Renaudot en 2013.
Ah,
le prix Goncourt, la bonne réponse, c'était Jubilation vers le ciel en 1996.
Okay. Et mais
bam,
vous êtes horrible.
Et bam.
Bien joué Axel. Ça fait partie de la compétition. Peut-on impunément parler de ses proches dans un roman ? La chronique de Nicolas Carreau aura-t-elle intéressé notre invité ? Avant de répondre non Bruno, rappelez-vous que le type quand même fait les chroniques livres sur Europe 1.
Oui. Et que vous
j'adore
sortez...
ce qu'il fait.
Ah, alors vous avez toutes vos chances. Bruno Salomon est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue. Les plus brillants esprits d'Europe 1 se surpassent pour vous surprendre et bluffer notre invité aujourd'hui, Bruno Salomon, qui remonte sur scène avec le show du futur à partir du 20 septembre. À suivre, la compétition continue avec l'entrée en lice d'Axel de Tarlé qui, pour se démarquer, ose une accroche choc. À quoi servent encore les banques ?
Ça sert à rien.
Calmez-vous, Eva. Laissons nos auditeurs trancher. Mais la question se pose car après les banques en ligne, le Apple Pay, voilà maintenant des distributeurs de billets sans banque. Du coup, c'est vrai, on ne sait plus trop ce qu'il leur reste aux banques. Mais on les embrasse quand même si elles font partie de nos annonceurs.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage se poursuit. Deux heures pour départager les meilleurs journalistes d'Europe 1. Vous votez pour votre chronique préférée. Nous sommes cet après-midi avec Bruno Salomon pour son nouveau spectacle Show du futur et son roman aux éditions du Cherche-Midi, Les Misophones. Ces gens qui souffrent de cette hypersensibilité acoustique qui leur rend insupportables les petits sons de la vie quotidienne. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir comme vous, Bruno, une oreille bionique ? Eh bien, c'est vous, Bruno, qui le résumez assez joliment, je trouve.
Je suis capable d'entendre un acarien se gratter les couilles à un concert d'AC/DC.
Ça, c'est imagé. Et voyez, ça me parle. On comprend tout de suite ce que c'est que la misophonie avec cette jolie formulation, Bruno. Alors on va passer.
C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on peut percevoir des sons que personne n'entend. Moi je dis, t'entends le sifflement là, quelqu'un qui sifflait.
Et les gens vous disent, non,
mais tu délires, mon vieux. Et moi ça me monopolise le cerveau. C'est assez étonnant. Alors, c'est super, Jimmy.
On va passer à un quiz très silencieux, tout en douceur. Mais pour l'instant, attention, vous risquez d'entendre quelques acariens. Voici la Roi Madureira, bon entendeur, et Nino Ferrer sur Europe 1. La Roi Madureira, c'était bon entendeur, et Nino Ferrer sur Europe 1. Alors Bruno, combien d'acariens dans cette chanson ?
Il y a beaucoup d'acariens partout.
Il y a beaucoup d'acariens partout. Ils
les
sont partout.
Ils sont nombreux, ils sont partout. Mon ils Dieu. Vont tous vous manger.
Mon Dieu.
Ils sont grands et petits à la fois. Ils sont partout et nulle part aussi.
Vous l'aurez compris, Bruno Salomon est notre invité cet après-midi.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Eva Rock, Axel de Tarlé, Nicolas Caro sont à mes côtés, avides de victoire, car c'est le concept de ce nouveau rendez-vous bonne humeur et découverte. Chaque après-midi, désormais, les journalistes d'Europe 1 se disputent le titre de chroniqueur du jour, sous l'œil complice mais exigeant de notre invité arbitre. C'est Bruno Salomon qui nous accompagne cet après-midi.
Très
complice, mais très exigeant. L'attachant Denis Boulet de Fais pas ci, fais pas ça renoue avec la scène. Votre nouveau spectacle, Bruno, s'appelle Le Show du futur, où vous imaginez, comme son nom l'indique, une émission du futur. Et à lire le pitch, je me dis que vous avez grossièrement, pour ne pas dire odieusement, piqué mon concept d'émission. C'est vrai, vous le disiez vous-même, vous l'avez remarqué tout de suite.
Bah oui.
Animateur puissant et mégalo, check. Chroniqueur avant-gardiste.
Ah, j'ai le nez qui me coule comme une vieille.
D'accord. Merci.
Et enfin, rubrique improbable.
Samedi, on fêtera les 10 ans de la faillite de Lehman Brothers.
À la lumière de ce constat, mon cher Bruno Salomon, je me demande si vous ne me prendrez pas un tout petit peu pour un con.
Complètement, vous êtes assis directement.
Votre autre actu, c'est ce livre, Les Misophones, publié au Cherche Midi, un roman qui met en scène des amis misophones, des gens qui souffrent de misophonie, donc une hypersensibilité acoustique qui fait que certains petits bruits de la vie quotidienne rendent fou. C'est quoi, Bruno Salomon, le top 3 des bruits du quotidien qui, vous, personnellement, vous rendent fou ?
Mastication, reniflement, sifflement.
Ce qui est bien, c'est que le mec, il n'y a pas pensé mille fois. Non, mais il n'en peut plus, il est au bout.
Non, mais on est nombreux, hein. C'est hallucinant le nombre de gens qui en souffrent. C'est fou.
Vous êtes combien
ça,
en France ?
Ça dépasse l'entendement.
Vous avez un chiffre à nous donner ?
D'après le seul bouquin qui existe là-dessus de Thomas Dozier, il serait 15% aux États-Unis.
15% de la population,
c'est... Ah oui, 15% c'est énorme.
Ouais. Effectivement, c'est
donc
énorme.
En France, à peu près pareil, on va dire.
Mais avec des degrés plus ou moins importants, misophonie.
Alors, on
hein,
l'est tous plus ou moins, mais le plus ou moins, ça fait la différence. Ouais. C'est-à-dire que mes personnages dans le roman, c'est vraiment plus. Quoi.
Vous, sur l'échelle de Richter de la misophonie, vous êtes à 9 ?
C'est l'échelle de Stéphane Escher sur la moi, je suis à 5, je suis dans la moyenne, je suis quand même assez raisonnable.
Vous avez rencontré des pires misophones que vous ?
J'ai rencontré des gens d'un niveau incroyable, et même des gens qui sont confiés à moi, je suis professeur.
Bah, j'imagine.
Mais comme votre personnage.
Oui, ça peut être terrible pour certaines personnes. Alors moi, j'ai décidé de le tourner dans la comédie, parce que ça aurait pu commencer par un meurtre, finalement, ça aurait pu être un drame total. Et puis je suis resté vraiment sur le fil de la comédie, parce que
c'est tant mieux.
Entre les deux, c'est plus intéressant.
Et je vous propose que nous procédions à un test. Un misophone est-il capable de s'indisposer lui-même ? Écoutez cette interview que vous donniez à nos confrères de la RTS et où vous parliez de la misophonie.
Mais c'est rigolo, on est nombreux, hein, j'en connais plusieurs. Et puis du coup, quand tu commences à creuser un petit peu, tu aperçois qu'il y en a pas mal qui subissent ce truc. Quoi. Il y en a pas mal qui... Mais bon, ça se soigne pas, hein, c'est ça le problème.
Ah non, c'est ça le problème, ça se soigne pas.
C'est ce que m'a dit ma mère. Elle dit, mais toi, tu supportes pas, et t'arrêtes pas de faire des chats, des soucis, des machins. Alors, c'est ce qui est très bizarre, je me disais, ça vient peut-être d'elle d'ailleurs. Mais oui, on en a tous. Alors, on en parlait avec Philippe Bandel d'ailleurs dans les couloirs, parce que lui, il m'a donné une clé pour ça. C'est-à-dire que je disais, mais par exemple, notre propre odeur ne nous dérange pas, mais lui m'a donné un autre tuyau. C'est on peut pas se chatouiller soi-même.
C'est vrai, ça ne marche pas.
Oui,
j'ai déjà essayé pour me divertir. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas.
Ça pourrait être sympa d'ailleurs.
On pourrait essayer tous les deux. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, Bruno Salomon, de mettre fin à des relations amoureuses à cause de ça? Une femme sublime, vous l'adorez, tout se passe bien, mais malheureusement, c'est pas, elle grince des dents.
Mais je mets la fin dès le début, là. Parce que là, si, non, mais ce que je dis dans le roman, c'est-à-dire, tant que je ne vous ai pas vu manger, je ne sais pas qui j'ai affaire.
On ne sait pas si on peut être amis avant d'avoir déjeuné ensemble.
Moi, j'ai des amis que j'aime plus que tout, évidemment, mais qui... voilà, enfin, c'est...
Vous leur dites qu'on se voit, mais pas pour le déj.
Voilà. Non, mais si on se voit à des moments précis.
Sans nourriture. Les Misophones, un roman et un nouveau spectacle, Show du futur. Bruno Salomon reste avec nous sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue, 2 heures pour remplir nos cerveaux et flatter nos zygomatiques grâce à la féroce compétition que se livrent désormais chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1. Un seul, vous le savez, sera élu chroniqueur du jour, peut-être Axel de Tarlé, l'expert éco, qui s'apprête à entrer dans l'arène avec un sujet qui nous concerne tous. À l'heure des applis, des virements en ligne, les banques servent-elles encore à quelque chose? Nicolas Carreau, votre sentiment sur le sujet d'Axel?
Pas le meilleur, mais enfin, ça a le mérite d'exister.
On avait dit fair play, fair play, bon, à tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec Eva Roch, Nicolas Carreau, Axel de Tarlé et sous la haute autorité de notre invité d'honneur, Bruno Salomon, avec nous pour fêter une double actualité.
L'autorité.
L'autorité de Bruno Salomon, un nouveau spectacle, Show du futur, en tournée dans toute la France à partir du 20 septembre, et un roman, Les Misophones, qui évoque le quotidien de ces personnes qui souffrent d'hypersensibilité acoustique. Vous voulez un manteau, Bruno?
Ah ouais, c'est ça, ouais,
non, ça, c'est pas possible. Ah là, ça, là, il devient
là,
tout
là,
rouge. Là, il est mal. On arrête tout de suite. Coupez le son.
Je coupe le son.
Ça pourrait vous inciter à frapper quelqu'un.
Bah, tout de suite, c'est vrai que c'est des envies de violence.
Alors heureusement, ne frappez pas Axel de Tarlé, c'est le plus gentil d'entre nous. Ah. Gentil, mais attention, compétent. Compétence garantie par l'obtention en 2003 du titre très convoité de Dauphin d'Or,
c'est
du
vrai,
meilleur journaliste économiste.
Oui.
Bon, depuis, il n'a plus eu de prix, mais il frétille encore. Axel, aujourd'hui, vous avez carrément décidé de vous payer les banques.
Oui, je vais essayer de vous intéresser, Bruno, avec la disparition des distributeurs automatiques de billets. Bah oui, voilà. Présenté comme ça, vous voyez, je pars avec des handicaps, mais je vais essayer de le surmonter. Donc, j'ai des chiffres. Depuis 2015, 3000 distributeurs ont disparu.
3000 ?
Ça fait 3 par jour.
Ça perd l'hypopète. Voilà.
Bon, pourquoi disparaissent-ils ? Parce mais que oui. Les banques les enlèvent.
Ça, c'est un lien de cause à effet que nul ne pourra mettre en cause.
Pourquoi les banques les enlèvent ?
Parce qu'ils nous donnent de l'argent.
Non, parce que nous les utilisons de moins en moins. Et pourquoi nous les utilisons de moins en moins ? Parce que nous retirons de moins en moins d'argent. Parce qu'on paye sans contact maintenant, de plus en plus.
Et par téléphone maintenant aussi.
On paye par téléphone, etc. On a de moins en moins de cash dans notre portefeuille. Alors j'ai un petit chiffre. À votre avis, en moyenne, combien avons-nous de cash en billets, en pièces dans notre portefeuille ?
Moi, j'ai rien. La moyenne, ça doit être 15 euros.
Ouais, 15 euros.
Mais non, vraiment, on peut c'est-à-dire que vous ne pouvez pas offrir
un euro pour le caddie.
34 euros la moyenne.
1 euro pour le caddie, ça c'est très juste.
Caddie,
non, c'est 34 euros la moyenne.
34 euros.
Oui, voilà. Alors, en tous les cas, il n'empêche
pourquoi
que
34
les... Bah, c'est la moyenne Banque de France.
Qui fait
c'est même
33,90 euros.
C'est lui, hein, c'est le dauphin.
J'ai voulu simplifier.
Quel est l'idiot qui n'avait que 90 centimes.
Non, mais c'est une moyenne. On divise par 66 millions d'habitants. Voilà. Alors, le problème, donc, c'est que les DAB disparaissent. Et ça fait beaucoup. Il y a 195 villages qui ont été déséquipés au cours de ces trois dernières... Je continue avec mes chiffres. Au cours de ces trois dernières années, eh bien, figurez-vous qu'un DAB qui disparaît, c'est un peu l'âme d'un village qui disparaît. Bah oui, d'abord, ils n'ont plus accès au cash. Mais oui, mais écoutez, c'est un peu un signe de déclassement. Vous savez, un DAB, j'ai lu, c'est un signe extérieur de richesse. Avoir un village qui a un distributeur automatique de billets, eh bien oui, quand il le perd, les habitants sont tristes. Et donc, que fait le maire pour ragaillardir ses habitants? Il commande un DAB. Alors, comme les banques ne veulent plus mettre de DAB, eh bien, on voit apparaître des DAB publics. Des distributeurs automatiques de billets
publics. Qui ne sont
publics,
pas reliés à LCL.
Qui ne sont pas reliés à des banques. BNP, et, voilà. Et donc, pourquoi je parle de ça? C'est le petit village de Locmaria-Plouzané, c'est dans le Finistère, qui vient d'installer un distributeur automatique de billets publics. Alors, il paye pour ça tous les mois. Il paye une société privée pour 1500 euros par mois qui va donner de l'argent.
Alors, je peux aller. Mais c'est légal ou pas?
Oui, c'est légal. C'est la mafia. Mais tout ça, ça pose quand même le problème de l'utilité des banques. Parce que si les banques ne vous distribuent plus. Déjà que les agences ferment, si les DAB ferment...
Et déjà que les agences ne sont plus parfois au niveau, on peut le dire, Bruno Salomon, nous-mêmes.
Il paraît qu'on
nous
refuse
ça au quotidien.
De vous offrir des cafés dans votre agence.
Ah, mais comment vous savez tout ça?
Parce qu'on a le même banquier, Bruno.
C'est vrai.
Et moi aussi.
Et donc,
vrai,
je vous pose la question. Mon si mais... les banquiers ferment leurs agences, ferment les DAB et n'offrent plus de cafés, on va tous finir dans des banques en ligne. Et c'est quand même un gros problème pour les banques, c'est que leur clientèle est volatile, ça, ils partent sur les banques en ligne.
pire, ils partent sur les banques en ligne étrangères. Pourquoi étrangères ? Parce qu'elles sont moins regardantes et plus souples dans les démarches administratives. Si vous vous inscrivez, vous savez, sur ces néobanques, on vous demande que 4, on vous demande pas une déclaration de revenus, etc. On vous demande que 4 documents, donc c'est très simple. Donc les banques, tout ça pour dire, sont en train de perdre 1, leur clientèle, 2, leurs recettes, parce que comment ça marche une banque ? La banque, c'est, elle fait travailler votre argent. Sauf qu'en ce moment, les taux sont à 0%.
Oui, la banque vraiment ne sert plus à rien. Là, vous
donc,
Excel,
quand
c'est,
elle
c'est
fait travailler l'argent à 0%, la banque ne gagne plus rien. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a un vrai malaise qui se dessine à l'horizon pour les banques, c'est qu'elles perdent leurs clients, elles perdent leurs recettes. Et les banques, c'est quand même en France, c'est pour terminer un peu sérieux, c'est 300 000 salariés qui travaillent dans les banques. Et donc, est-ce que ce n'est pas le nouveau casse social un peu dramatique qui se profile à l'horizon ? C'est pas la déliquescence, mais disons la cure d'amaigrissement qui se profile dans nos réseaux bancaires.
Et la fin des cafés.
Voilà, tam-tam pour les banques. Hein. Je vous ai fait pleurer pour les banques.
Moi, je dis qu'il faut revenir au troc. Hein.
Ah oui, c'est pas voilà. mal.
Mais vous, ça se développe, il y a des applis de troc.
T'échanges ma carte bleue contre ma carte noire.
mon American Express. Je suis pas sûr que vous soyez gagnant là. Notre partenaire, en tout cas, Société Générale, valide cette chronique. Merci Axel de Tarlé. Vous n'y couperez pas la question vache. De l'autre chroniqueur, Nicolas Caron.
Cette pauvre vache, quand même, depuis le début de la semaine.
C'est vrai.
C'est
on fera la même.
Même
chose avec la question qui rend chèvre. On alternera. Vous savez, l'humour est un chèvre.
Ah, vous pouvez le refaire
Oh mon Dieu
Les gens ne savent pas que ce n'est pas des effets spéciaux.
Un jingle gratuit offert par Bruno Solo. Bruitez la bouche.
Bruno Nicolas. Salomon, vous avez dit Bruno Solo.
J'ai dit Bruno Solo. Bruno Solo Salomon. C'est son frère.
Non, on me le fait souvent.
C'est vrai ?
Oui, bah oui.
Les gens, on m'appelle.
Nicolas Caron, enfin,
oui,
vous avez une question pour Axel de Tarlé.
Et un peu hors sujet, je m'excuse, mais il faut que je vous raconte les coulisses de l'émission ce matin.
Déjà, le ton est un peu hors sujet,
oui.
Je trouve.
Parce que c'est un peu solennel. Vous allez voir, c'est un peu solennel. Ça fait 12 ans que je suis à Ropin, 12 ans que j'ai l'honneur d'appeler Axel de Tarlé, mon ami. Et ce matin, je l'ai croisé, je lui ai dit « Bonjour, je suis content, je suis avec toi chez Mathieu Noël. » Et il m'a dit « Je jure que c'est vrai, je vais t'exterminer. » Ma question est la suivante.
Le dauphin exterminateur.
Tu vas peut-être, Axel, gagner la compétition, mais est-ce que tu n'as pas peur de perdre ton âme ? Pourquoi tant de haine ?
C'est des questions bien trop philosophes pour moi. Tu veux pas que, plutôt que je te pose une question sur le prix Renaudot de Yann Moix en 2013 ?
On ne les mettra pas.
Je sais que tu connais la réponse.
Votre sujet, Axel, à la limite de l'anticapitalisme sur les banques, vous permettra-t-il de l'emporter en fin d'émission ? Vous votez via Twitter et Facebook.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue avec aujourd'hui Bruno Salomon, aussi appelé l'homme aux mille talents. Showman, bête de scène, son nouveau spectacle, le show du futur, va vous subjuguer en tournée dans toute la France à partir du 20 septembre, mais aussi désormais romancier. Il signe aux éditions du Cherche Midi Les Misophones, un roman évoquant la vie pas toujours facile de ceux qu'un simple bruit de mastication peuvent rendre dingue.
Oui, mais...
Respirez fort, Bruno, dans quelques instants vous serez opposé à Eva pour un quiz. Vous aurez besoin de toutes vos facultés.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. Deux heures de gai savoir en compagnie du top, de la crème des journalistes d'Europe 1 qui s'entretuent au service de votre culture G. Qui vous aura le plus étonné cet après-midi ? Qui sera élu chroniqueur du jour ? C'est vous qui décidez avec notre invité du jour, Bruno Salomon. Pour l'instant, tout va bien, Bruno ? On ne fait pas trop de bruit ?
Ça va. Mais alors, ils votent et ils sont éliminés après si,
Ils ne sont pas éliminés. Il y en a un qui aura 0 points, l'autre qui aura 3 points.
Et après,
il y aura un gagnant, il y aura un perdant.
Il perd son contrat de travail.
C'est le grand jeu de la vie.
Ah oui, t'es viré.
Je rappelle que Bruno vient nous présenter son nouveau spectacle, le show du futur et son roman, Les Misophones, du nom de ces personnes qui ne supportent pas les petits bruits du quotidien. On continue donc tout en douceur avec un petit quiz. Non, pas non, non, le misophone, Bruno Salomon, non, non. Voilà, tout doux, la musique du quiz. À l'occasion de votre roman, Les Misophones, c'est un questionnaire évidemment sur le son, les bruits, le volume qui vous attend. Chaque réponse vaut un point. Vous jouez évidemment contre Eva Rock. Une question d'abord pour Bruno. C'est un vrai faux. Le serpent à sonnette fait beaucoup de bruit grâce à sa queue. Mais il ne le sait pas car il est sourd. Vrai ou faux ?
Moi je dis vrai.
Bruno Salomon est un champion d'herbe. Oui ! Il fait du bruit, le serpent à sonnette, grâce aux grosses écailles de sa queue. Écoutez.
Pas mal, on dirait un café.
Oui, ça a été enregistré à la Selecta, effectivement dans la rédaction, mais ça sonne à peu près comme un serpent à sonnette. Il ne le sait pas puisqu'il est totalement sourd, ce con de serpent à sonnette. Et Baroque, je connais votre passion pour les chiffres. Le décibel sert à mesurer le niveau sonore. On parle en dB. Vrai ou faux, 26 dB correspond à deux fois plus de bruit que 23 dB.
Ah non, pas du tout.
Pourquoi ? Vous devez justifier votre réponse.
Comment ça, je dois justifier ma réponse?
Comment ça?
Pourquoi
vous devez justifier. Faudrait...
Bah parce que je
vous semblez très sûr de votre fait.
Non, mais parce que je le vois bien sur mon casque. Si je mets 20 dB ou 23 dB ou 26 dB, ça fait pas deux fois plus de.
Oui, bah en tout cas, vous n'avez rien compris puisque c'est vrai. Donc vous avez tort.
Le dB. Justifiez votre réponse.
Mais je vais vous l'expliquer. Le dB est une valeur logarithmique, c'est évident. Ajouter 3 dB correspond à multiplier l'intensité sonore par 2. Donc 26 dB, c'est deux fois plus fort que 23 dB. Pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé. Une question.
Moi, je savais.
Évidemment, Bruno.
C'est exponentiel.
Bruno, j'avais un cadeau, mais je crois que je vais le garder pour moi.
Une question avec trois propositions maintenant. Me donnez chacun votre choix et ensuite je vous donne la bonne réponse. Qu'est-ce qui fait le plus de bruit ? 1. Un rasoir électrique. 2. Une motoneige qui circule à 10 km/h. Ou 3. Le record du monde du RO le plus fort jamais enregistré.
Le RO.
Eva ?
Bah, je vais donner une autre réponse. Je vais dire la motoneige.
Bah, franchement, moi j'aurais dit aussi la motoneige parce que ça fait quand même un sacré
boucan. Non, j'aurais dit l'euro. 10
km/h, excuse-moi.
Mais oui, c'est pour ça. Puis sur la neige.
10 km/h, c'est lent.
Oui, puis sur la neige.
Eh bien, la bonne réponse va à Bruno.
Oui.
Salomon Latroie, Paul 1 en 2009, a fait un RO à 109 décibels.
Oh non !
109 décibels, c'est joli. Hein, c'est joli, Polo. Un rasoir électrique fait 85 décibels à une motoneige, encore moins, finalement, 73 décibels. Finalement, pas très fort. Eva Rock, pour
un bilan carbone, c'est moins bien.
Klaxon. Un klaxon, Eva, c'est bruyant.
Oui.
Mais surtout, ça s'écrit toujours avec un K majuscule, vrai ou faux ?
Ah oui, parce que c'est une marque, peut-être.
Oh, Eva, vous avez marqué un point.
Oui, c'est ça.
Et ça n'arrive pas tous les jours.
Et oui,
on
c'est
le signale,
vrai.
Le klaxon faisait au début des klaxons pour les vélos. C'est une marque. Attendez, refaites de nous, parce que les gens peuvent penser que c'est un son enregistré. Mais c'est hallucinant. Le don de cet homme ne cesse de me fasciner. Bruno Salomon. Bruno Salomon, selon la musique que vous faites écouter à des graines de géranium, ce qui vous arrive très souvent,
évidemment.
Car vous aimez géranium.
Je suis très amie avec des
géraniums. Vous pouvez lui faire changer de couleur.
Oui,
vrai
c'est
ou faux.
Oui, c'est vrai.
Eh bien non, c'est faux.
Eh ben si, c'est vrai.
Non.
Moi, je l'ai fait. J'ai fait changer de couleur. Alors là, en chantant des chansons de Joe Dassin.
Non, par contre, si vous faites écouter à certaines plantes des bruits de chenilles qui croquent des feuilles, elles peuvent émettre des molécules chimiques.
Mais il y a des mecs qui font ça comme expérience, en fait. Ils font écouter des bruits
mais
de chenilles.
Ça, je ne sais pas, vous verrez avec Sébastien Bordenave qui trouve ces questions. Une question, trois propositions, vous me donnez votre choix. Ensuite, je donne la bonne réponse. L'acteur Mel Blanc était connu pour faire la voix de Bugs Bunny. Comment faisait-il pour reproduire, en fait, le bruit de la carotte qu'on croque ?
Non, c'était Guy Pierrot qui faisait...
Oui, mais là en France, mais là je vous parle aux États-Unis. 1.
Ah, pardon.
Il écrasait des grillons séchés. 2. Il utilisait du gravier dans sa main. Ou 3. Il croquait une carotte.
C'est quoi le premier, pardon ?
Il écrasait des grillons séchés.
Des grillons ?
Et comme le docteur, je sais pas ce que j'ai, mais ça me gratte, oui.
Je sais pas, moi je dirais des grillons, ouais.
Ah bah moi je dis que tu croques une carotte, tout simplement.
Eva Rock, votre bon sens vous honore. Oui, il croquait tout connement une carotte. 2-2 partout. J'aime quand c'est une égalité parfaite entre l'invité et Eva Rock.
Moi j'ai un petit cadeau pour
Eva,
pour
vous avez un cadeau pour Bruno Salomon.
Parce qu'il y a un ingrédient qui ne fait pas normalement trop de bruit et que vous adorez. Et qui ressemble à ça.
C'est
alors ça fait du bruit. Si c'est des nounours au chocolat en guimauve.
Mais voilà, vous. Ça c'est une bonne idée.
C'est pas des nounours, c'est des koalas.
Oui, c'est des koalas.
C'est pas la même chose.
Mais ce bruit-là.
Ah ça c'est terrible. Quand on est au cinéma ou dans un train, que ça.
Ouais.
Nous l'ouvrons pas tout de suite. Bruno Salomon, est-ce que votre misophonie dont on parle depuis tout à l'heure, cette hypersensibilité acoustique, thème de votre roman, n'est pas en fait finalement la clé de votre talent vocal qu'on vient d'entendre ? Vous nous l'avez démontré encore une fois. C'est justement parce que vous êtes hypersensible au son, vous arrivez à les recréer. Finalement.
Oui, je pense que c'est une passion pour les sons, justement, que j'ai. Je suis fasciné, j'entends des sons depuis tout petit.
Donc ils ne font en aucun cas vous débarrasser de cette misophonie, en fait.
Quelque part, non.
Il faut la juguler.
Vive la misophonie.
Vive la misophonie. Les misophones, son roman et son nouveau spectacle Show du Futur arrive le 20 septembre en tournée dans toute la France. Bruno Salomon passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipe sauvage continue 2 heures pour comprendre le monde qui nous entoure sans jamais oublier d'en rire. Pour vos beaux yeux, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent. Un seul décrochera le prestigieux titre de chroniqueur du jour. Qui ? C'est vous qui décidez. Et notre invité d'honneur, Bruno Salomon, qui s'apprête à remonter sur scène de Nice à Paris, de Rouen à Marseille, pas moins de 45 dates. Réservez vite la vôtre. Hier, avec Grand Corps Malade, on évoquait les difficultés de l'enseignement en banlieue. Dans quelques instants, nous recevrons Juliette, une jeune prof qui a parcouru 18 pays pour voir comment ça se passait ailleurs et essayer de trouver des solutions. Vous aimez l'école, Bruno Salomon ? Ça devait être dur. Hein. Ça devait être terrible, l'école.
Bah, en fait, je pouvais rater une interro si quelqu'un mastiquait son stylo ou un truc comme ça.
Est-ce que c'est une excuse que vous avez déjà
donnée à vos parents ? J'ai jamais osé le dire, mais c'est vrai.
Vous le dites aujourd'hui.
Et je le dis aujourd'hui.
Sur Europe 1. Oui. En exclusivité.
En exclusivité pour vous ce soir.
Mais vous appréciez quand même la musique.
Ah ben justement, oui.
Si je vous dis Amy Winehouse, c'est pas mal.
I love it.
You love it.
I love it.
You know I'm no good. Anyone else sur Europe 1.
Yeah. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec Eva Rock, Axel de Tarlet, Nicolas Caro et notre invité Bruno Salomon qui s'apprête à rebrûler les planches à partir du 20 septembre prochain avec le show du futur, son nouveau spectacle. On continue d'en parler ensemble, mais d'abord, à quelques jours de la rentrée scolaire, une question. Au lendemain aussi des annonces du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui cherche l'apaisement d'ailleurs avec les enseignants. Peut-on encore innover en matière d'enseignement aujourd'hui en France ? Bonjour Juliette Percher.
Bonjour.
Vous avez 30 ans. Après 4 ans comme prof de français en collège, vous avez choisi de faire un tour du monde des écoles pour ne garder que le meilleur des 18 pays traversés. Vous en avez tiré un livre intitulé « L'éducation n'est pas une science exacte » aux éditions Kero. Alors pour commencer, donnez-nous un truc, une astuce de prof que vous avez découvert durant ce tour du monde et que vous avez choisi d'appliquer au quotidien dans votre classe.
Alors, une astuce de prof, ça aurait été ce que j'ai vu dans un cours d'anglais en Finlande. Et du coup, ça tombe bien parce que c'est un peu dans la thématique de la rentrée. C'était une prof qui commençait sa séquence et au lieu de faire une banale fiche de renseignement où on demande la profession du père, profession de la mère, etc., oui. Elle demandait un peu à ses élèves quel type de pédagogie vous aimez, quels sont les objectifs que vous vous fixez pour l'année en termes de notes, en termes d'efforts, etc. Et elle leur donnait vraiment la place, enfin une voix, et elle voulait vraiment savoir leur retour. Et en fonction de ça, elle s'adaptait. Elle disait, ah bah oui, mais il n'y a aucun souci si vous ne voulez pas trop vous investir en anglais. On a tous des priorités différentes.
Moi, je ne veux rien faire.
Non, mais c'était vraiment étonnant.
C'est pas tombé dans une forme de laxisme. Enfin, disons, si vous tombez sur des élèves motivés, il n'y a pas de problème. Ils vont être intelligents. Mais si ceux qui ne veulent pas bosser, ça va être compliqué.
Mais du coup, là où c'était intelligent, c'était qu'elle disait, bah, on a tous des priorités différentes. Mais après, forcément, bah, on n'atteint pas les mêmes objectifs. Quoi.
Oui, c'est ça.
C'est que si vous avez décidé de fournir aucun effort en anglais, bah forcément vous attendez pas à avoir la meilleure note qui est 10 sur 10 en Finlande. Attendez-vous plutôt à stagner autour de 5 quoi, hein, mais du coup c'était aussi bon bah voilà, il y a pas de souci.
Mais par rapport au projet, oui, c'est pas mal. Hein. Ouais. Si on voulait avoir 5 et qu'on a 5,
à la fin du trimestre, on dit on est conforme voilà. à nos espérances. Vous avez aussi remarqué que les sanctions n'existent pas dans la plupart des écoles scandinaves, aux États-Unis aussi. Comment ça se passe du coup s'il y a pas de sanctions ?
Dans les pays scandinaves, c'est assez surprenant. Il y a un vrai travail justement sur en fait, faire réfléchir les élèves à ce qui peut les faire progresser. Et on fait un vrai travail de prévention plus que de répression. Et du coup,
ça marche.
Et ça fonctionne. Après, ce sont aussi des pays qui sont très consensuels en termes de culture. Donc nous, avec on a fait la révolution, etc. Je suis pas sûre que ça fonctionne aussi bien. Mais malgré tout, il y a vraiment des choses à apprendre parce que. Les enseignants passent beaucoup de temps à discuter avec les élèves, à essayer de leur donner des outils pour s'améliorer. Parce qu'en fait, en réalité, souvent, si ça se passe mal en classe et que l'élève, lui, il a des problèmes à gérer ses émotions, à travailler. Et en fait, ce sont des choses qu'on peut travailler en amont.
Alors justement, vous dites qu'il faut laisser davantage de place aux émotions des enfants. Mais concrètement, quand vous êtes prof et que vous devez gérer une classe, il faut quand même leur apprendre des trucs. Comment vous laissez la place aux émotions ?
Bah, en fait, il y a des trucs tout bêtes, comme par exemple, en début d'heure, leur demander quelque chose qui s'appelle la météo émotionnelle. C'est on leur demande s'ils sont plutôt soleil, c'est-à-dire s'ils sont en pleine forme.
Ça, c'est pour les tout-petits. Hein.
Non, mais même moi, je le faisais...
Avec les lycéens.
Moi, vous ne m'avez pas demandé si j'étais soleil.
Est-ce que vous êtes soleil?
Moi,
je suis très soleil. Petit nuage,
je suis astéroïde en ce moment.
Astéroïde, Buenos Aires.
Non, mais c'est vachement bien, je trouve, parce que c'est l'humain qui prime avant tout. C'est, moi, à quel point les profs m'ont influencé. J'avais des profs de maths et de physique qui étaient extra. Du coup, j'étais meilleur en maths et physique.
Vous étiez quel type d'élève, vous, Bruno Salomon ? Vous étiez sérieux
jusqu'à,
très sérieux
jusqu'à ce qu'on me fasse redoubler. Et là, je suis devenu...
Vous avez essayé de mettre le bordel.
Ouais, j'ai foutu le dawa, quoi, comme on dit.
Vous êtes parti de l'idée que les pédagogies alternatives, c'était le Graal. Dans votre classe, les tables étaient rangées en carré pour favoriser le travail de groupe. Et puis, à votre retour de ce voyage, vous avez remis les tables en rang face au tableau. Qu'est-ce que vous avez découvert ?
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Qu'est-ce qui s'est passé, Juliette Percher ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est juste que je me suis dit, ces pédagogies alternatives qui ont vraiment le vent en poupe en ce moment, elles ont plein de choses positives et elles sont très positives sur de nombreux points. Mais en réalité, elles ne sont pas tout le temps positif. Faut réfléchir au sens, en fait. Et que parfois, y a des moments où on a besoin de transmettre des connaissances. Et si on a nos élèves en carré, c'est plus compliqué de transmettre les connaissances parce qu'en fait, ils ont plus envie de bavarder entre eux, ce qui est normal. Mais que parfois, on a besoin de faire travailler nos élèves à la coopération. Donc du coup, bah, justement, on va mettre nos élèves en carré. Il y a des moments, moi, ils doivent écrire parce qu'on est en cours de français. Bah, là, du coup, mettre nos élèves en carré, bah, ce n'est pas forcément le meilleur plan non plus. Donc en fait, c'est juste de réfléchir au sens de ce qu'on fait et de faire en adéquation avec ça.
Plein d'idées récoltées donc à l'étranger dans ce livre. L'éducation n'est pas une science exacte. Dernière question, dans beaucoup de pays, vous avez constaté que les élèves et les profs mangent ensemble à la cantine. Ça, c'est une bonne ou une mauvaise idée?
Mais, en fait, je
j'aurais adoré
c'était...
manger si les profs. J'étais un peu faillot. Cimastique, non. Nous dit Bruno Salomon.
C'est vrai que c'est... Faut faire attention au bruit. Mais en fait, je trouvais que c'était assez révélateur de la distance qu'on peut imposer en France entre les élèves et les profs. Et qui est vraiment très réduite, voire gommée ou inexistante dans d'autres pays. Où justement, bah, à midi, bah, on peut partager un repas avec un prof. Et ça permet au prof de voir les élèves dans un autre contexte. Parce que moi, clairement, quand je les vois 4 heures ou 5 heures par semaine, j'ai du mal à les voir dans un autre contexte. Et en même temps, on n'est pas obligé. C'est toujours la même chose. C'est, bah, parfois, les profs ont envie de déjeuner avec d'autres profs parce qu'ils ont envie d'avoir des conversations.
Ou draguer d'autres profs.
Voilà,
oh, on sait ce que c'est, hein, cantine entre profs. Juliette Percher, votre livre s'intitule « L'éducation n'est pas une science exacte » chez Kero Éditions. Merci d'avoir été avec nous. L'humour non plus n'est pas une science exacte. Pourtant, certains font mouche à tous les coups, les petits salauds. Bruno Salomon remonte sur scène. Il est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage, cette Ligue des champions des journalistes d'Europe 1 continue. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui dont le papier vous aura le plus étonné, le plus intrigué. Et justement, quand on sait que le prochain concurrent n'est autre qu'Alain Sirou, le directeur de la revue Ciel et Espace, et qu'il va nous comparer la politique spatiale de Trump à celle de Kennedy, comme dirait Eva en découvrant dans l'intimité son dernier plan Tinder...
C'est énorme.
À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage se poursuit. 2 heures d'infos et de découvertes validées par les journalistes de la rédaction d'Europe 1, mais enrobées d'une belle couche de n'importe quoi. Comme l'ont souligné perfidement mais habilement nos invités d'hier, Mehdi Idir et Grand Corps Malade, au détour d'une chronique de notre expert innovation Anissé Mbida. Anissé qui nous parlait des drames liés à la pratique du selfie, des drames parfois très dramatiques.
Il y a quelques jours, c'était il y a 10 jours en Australie, une femme qui est morte, c'est grave parce qu'elle est tombée d'une falaise.
C'est grave, ouais, d'être mort en général.
Ouais, souvent la mort c'est une galère. Hein.
Tu peux rien faire après, c'est relou.
Et oui, la mort c'est grave et sur Europe 1, n'hésite pas à le dire, on ne nous musellera pas. Et la compétition continue. Avant qu'il ne s'éclipse pour laisser la place à deux nouveaux concurrents, on salue Axel de Tarlet et Nicolas Caro. A tout à l'heure, messieurs. Attention, je le rappelle, interdiction de voter pour vous une fois en dehors du studio. On en connaît qui l'ont fait. On en connaît. Mais tiens, il est 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue sans Marlon Brando, mais avec Bruno Salomon, grand arbitre du jour de notre compétition désormais quotidienne entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Vous votez pour la chronique que vous préférez. Bruno Salomon tranchera en fin d'émission sa voix contre-attrip. Pour l'instant, ça va, Bruno?
C'est un enfer, quoi. C'est...
Super, on est bien. On continue de parler
c'est
ensemble.
Vous parler sans que je parle.
J'ai plus besoin de m'exprimer. Vous appréciez ce
vrai,
moment.
Là, c'est vraiment moi qui, ah,
c'est
moi qui vais parler.
Vraie voix.
Ma vraie moi. Ma
votre vraie vous.
Ça va très bien. Je suis heureux.
On continue par l'ensemble de votre nouveau spectacle, le Show du Futur, en tournée dans toute la France, puis au Palais des Glaces à Paris à partir du 23 janvier prochain. Mais la compétition doit continuer. Vous avez trouvé Game of Thrones cruel, c'est que vous n'avez jamais visité la rédaction d'Europe. Je vous présente deux nouveaux concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. Bonjour Alain Sirou.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste scientifique, vous dirigez la revue Ciel et Espace. À l'aveugle, je mettrai un petit billet sur vous, car en termes d'infos étonnantes, vous m'avez rarement déçu. De quoi vous nous parlez aujourd'hui, Alain?
Je vais vous emmener dans un endroit où vous n'avez jamais mis les pieds.
Qu'est-ce que vous
mais
en
vraiment...
savez?
Bah, alors là, j'en suis quasi certain.
Essayez.
Le bureau ovale, mais la Maison Blanche.
Ah oui, non, ok.
Effectivement, pour un des grands moments de l'histoire.
À ses côtés, Bruno Salomon, je vous présente une femme qui compte dans la rédaction. Voici la très compétitive Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Quelqu'un d'extrêmement déterminé qui vraiment se donne les moyens de réussir tout ce qu'elle entreprend.
Je vais devenir le meilleur coup de Paris.
Quel que soit le domaine, visiblement. Ève, vous êtes actuellement
Bonjour.
En tête du championnat des journalistes d'Europe 1, il faut le savoir. Par quels moyens comptez-vous le rester?
Eh bien, en continuant à faire de l'œil à l'invité.
Ah, c'est juste
le
comme
ton
ça
est donné.
Où est-ce qu'il y a quand même un sujet?
Alors, nous allons parler des défauts physiques imaginaires.
Et je crois que c'est un nom.
Nous-mêmes, c'est ça?
Absolument.
Et c'est un nom barbare.
Ça s'appelle la dysmorphophobie corporelle.
Je vous laisse le prononcer, voilà, c'est mieux. Vous connaissez ça, Bruno, la dysmorphophobie?
Pas du... rien.
Non. J'ai l'impression que rien que d'entendre le mot, vous avez l'impression
déjà,
de l'attraper.
J'ai mal à la tête.
Alors Bruno Salomon, surtout depuis l'incroyable succès des 9 saisons de la série Fais pas ci, fais pas ça, tout le monde vous connaît. On a quand même tenu à le vérifier dans la rue, bon, dans un périmètre de 150 mètres autour d'Europe 1, donc je ne sais pas si ça a une valeur statistique.
Vous avez fait voter les gens
voici,
aussi.
Vous avez, moi je fais voter tout le monde. Voici non pas un micro-trottoir, parce qu'un micro-trottoir est généralement monté pour flatter l'invité, mais un micro-trottrash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on n'a rien coupé.
Bruno Salomon, comédien qui a fait du one-man show à l'époque et qui a joué dans Brise de Nice.
Cassé.
C'est pas lui qui dit ça.
Eric Dosgore, non? C'était ça, le... Igor Dosgore.
Bruno Salomon, ouais.
Ah, le comique, ok.
Qu'est-ce qu'il a comme formation?
Le potager du jardin.
L'école de la rue Blanche, rien.
C'est un beau mec, quoi. Oui, c'est un beau... Enfin bon, il est un peu trop jeune pour moi, c'est pour être mon fils, peut-être.
Il est sexy, plutôt mignon.
Bah après, il a fait plein de trucs, il a fait... comment? La série sur la 2, la Fais pas ci, fais pas ça.
Les... Fais pas ci, fais pas ça, non, moi. Je fais tout ce que je veux.
Vous avez du bol, Bruno, les gens globalement vous adorent, on n'a pas eu besoin de monter quoi que ce soit.
Il a fait quoi, lui? Il n'a pas fait
la rue Blanche. Il était un petit peu dur, lui. Finalement, on vous connaît peu, Bruno Solo.
Solo.
Non, mais plus avec ça, Mathieu Noël.
Ah non, mais monsieur Mathieu Pack.
On vous connaît assez peu, finalement, Bruno Salomon.
Non, mais je vous en prie.
Contrairement à beaucoup d'artistes qui se livrent énormément sur scène, en ce Varie Habitant, c'est bien comme ça qu'il s'appelle, lui.
Oui,
en ce Varie Habitant lundi, qui a fait tout un show autour de sa propre vie, ça s'appelle My Story, vous restez très secret. C'est une forme de pudeur ou c'est juste que vous trouvez pas ça très drôle de raconter votre propre vie?
C'est un peu ça, ouais. Je trouve que faut avoir une vie vraiment exceptionnelle pour la raconter. Mais on se raconte toujours indirectement ce qu'on disait tout à l'heure, mais je me sers des petits moments de ma vie et je les décale. Mais après, raconter ce que je mangeais quand j'étais petit, ce que faisait ma grand-mère et tout, machin, enfin, on s'en fout. Enfin, je veux dire, moi, ça me gonfle quand je vois les mecs qui racontaient leur vie, je me dis, ouais, bon.
Mais à travers un personnage, on peut vous retrouver. C'est-à-dire que votre meilleur ami, par exemple, il va voir votre spectacle et il va savoir ce qui correspond vraiment à vous.
Peut-être.
On l'appelle, il est avec nous en ligne. Même dans la vie, je trouve que vous êtes insaisissable, Bruno Salomon. Je m'explique, il y a deux types d'humoristes. Ceux qui ont une nature comique, qui par définition s'exprime en permanence, cette nature comique. Donc je pense à François-Xavier Demaison, Harry Habitant qu'on recevait lundi. Et puis il y a les humoristes qui ont besoin de passer par l'écriture, les histoires, la narration pour développer leur humour. Vous, Bruno, je sais pas dans quelle catégorie vous classez en fait. Vous appartenez aux deux.
Mais c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce que moi j'aime bien être inclassable. À chaque fois, j'essaie aussi de me surprendre. Si on m'attend quelque part, je vais ailleurs. Quoi. C'est l'idée. C'est pour ça que j'ai créé aussi un roman, j'ai créé un film d'animation. Et ce que j'aime avant tout, c'est raconter une histoire. Après, qu'il y ait du drame, qu'il y ait de la comédie, qu'il y ait tout, qu'il y ait des émotions, monsieur, des émotions.
Des émotions, vous imitiez qui là?
Mais je m'imite moi.
Il s'auto-imite.
Non, mais c'est vrai, c'est insupportable cette dictature de faut être drôle tout le temps et machin de ça. Moi, je l'ai un peu subi au début. Je me disais, mais attends, les mecs, on ne peut pas faire une phrase normale, on ne peut pas se parler normalement. Et puis, il y a cette sorte de vision des gens qui s'imaginent qu'il ne nous arrive rien de dramatique. C'est-à-dire que. On est dans un monde des bisounours, c'est qu'on fait des vannes tout le temps et on rit tout le temps.
Vous aussi, vous avez votre part d'ombre.
Et oui, je suis obscur. Non, mais c'est vrai, il faut avoir conscience que nous sommes des êtres normaux, en fait.
Son nouveau spectacle s'appelle Le Show du Futur. Il sera notamment Palais des Glaces à Paris à partir du 23 janvier et en tournée dans toute la France dès septembre. Bruno Salomon est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue sur Europe 1. Dans un instant, la compétition mettant en prise les meilleurs spécialistes d'Europe 1 se poursuit avec l'entrée en scène de notre expert ciel et espace, Alain Siroux, ou plutôt Agent Siroux, qui, Dieu sait comment, peut-être simplement parce que c'était en Facebook Live, a réussi à entendre la conversation entre Donald Trump et le directeur de la NASA. Deux infos. 1. La conquête spatiale, c'est reparti. 2. N'est pas Kennedy qui veut. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage, deux heures déjantées certes, mais aussi bougrement informative continue. La grande compète des journalistes d'Europe 1 entre dans ce qu'on appelle en NBA le Money Time. Sous l'œil des Varocs, Ève Roger est notre invité d'honneur aujourd'hui, Bruno Salomon, qui désignera tout à l'heure le chroniqueur du jour, celui qui aura le plus piqué sa curiosité. Bruno qui fait avec nous son retour sur scène, il sera en tournée dès le 20 septembre avec le Show du Futur, son nouveau spectacle. Et Bruno, vous dites, j'adore la découverte, être surpris, ça éveille ma curiosité. Les premières palpitations, les mains moites, le cœur qui s'emballe. Mais ma parole, on dirait que vous connaissez déjà Alain Siroux. Notre expert scientifique, directeur de la revue Ciel et Espace. Alain, on me dit que pour cette chronique, vous avez espionné Donald Trump au cœur du bureau ovale. ne prenez pas trop de risques quand même, c'est une émission de divertissement.
Oui, mais vous vous souvenez de cet été, hein, les 50 ans de l'homme sur la Lune, les voyages extraordinaires dans le ciel racontés par Jules Verne. Et c'est vrai qu'on se dit toujours, mais qui a inventé ça? Mais qui a décidé de ça? Et c'est vrai qu'au mois de juillet, il y avait une réunion dans le bureau ovale à la Maison Blanche pour décider du futur. Où est-ce qu'on ira, sur la Lune ou sur Mars? Et là, on ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer, de se souvenir des grands hommes, leur grande vision, et en particulier de Kennedy en 62. Vous vous souvenez peut-être juste le ton.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Voilà, on a choisi d'aller sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Et là, c'était les 50 ans, dans le bureau ovale. Il y avait donc quelques personnages, beaucoup de personnages, assis Donald Trump, toujours assis, le chef, et puis autour de lui, on va juste s'intéresser à quatre personnages, trois personnages exactement. Le premier personnage, c'est Mike Collins. Oui, c'était le gars qui est tourné autour de la Lune avec Apollo 11. Aujourd'hui, il a 88 ans, c'est une petite pomme ridée, un monsieur tout souriant qui dit pas un mot.
On l'embrasse, il nous écoute.
Il nous écoute, voilà.
Little Apple.
À côté de lui, Buzz Aldrin, le second à avoir marché sur la Lune, vous savez, 89 ans, second piéton. Et lui, alors pour le compte, il est plutôt imprévisible et on se souvient aussi, enfin en tout cas, on le savait pas en tout cas, que ses enfants avaient passé un deal avec la NASA longtemps de cet anniversaire parce que il était accusé par ses enfants de démence, d'irresponsabilité.
Donc il a toujours été un peu grande gueule, Buzz Aldrin.
Un peu grande gueule, mais là carrément, il est vraiment accusé par ses enfants en disant on veut le mettre à l'asile. Donc on a dit non, surtout pas ça. Tranquille pour les commémorations. Donc il y avait ces deux personnages. Et puis le patron de la NASA, Jim Bridenstine, qu'on va appeler Jim, oui, administrateur, 44 ans, un ancien pilote. Un peu garçon bouché, vous voyez, un petit peu bien dans sa peau, un peu rouge.
Un peu rouge.
On le voit vraiment devant l'établi, en quelque sorte.
Mais compétent, quand même.
Très compétent. Représentant républicain de l'Oklahoma, à qui Donald Trump a dit il y a 3 mois « On retourne sur la Lune et en 2024, je veux tout de suite 2024 !»
Le mec, il a dû avoir des sueurs froides, quoi.
Terrible, parce que 2024, pour tout le monde, c'est absolument impossible. Et on assiste, à ce moment-là, à un moment extraordinaire où Trump regarde les gars en disant « Bon, allez, ça y est, on a été sur la Lune, maintenant c'est sur Mars, hein, Jim ?» Et le Jim, comprenant que Trump a complètement oublié, « Monsieur le Président,
on avait dit la Lune,
enfin c'est déjà difficile, vous savez, parce que Mars, c'est vraiment très très loin. » Et Trump, un peu étonné, se tourne à ce moment-là vers Buzz Aldrin, dit « Et vous, Buzz, vous en pensez quoi ?» Alors Aldrin fait « Mars, directement !» Et Trump se retourne avec un air goguenard vers le Jim, toujours patron de la NASA, en lui disant « Bah alors, vous ne pouvez pas les écouter, ces deux-là, ils ont de l'expérience. Vous pourriez les embaucher, eux au moins, ils savent de quoi ils parlent. » Alors ça, c'était le grand moment.
On rappelle à nos auditeurs, Alain, que là, vous n'inventez pas. Vous livrez la vraie conversation de Donald Trump et le directeur de la NASA.
C'est la conversation enregistrée, filmée. Et là, on se dit, mais c'est incroyable. Et la conséquence, je veux dire, la leçon, en tout cas, la conclusion de cette scène, c'est deux choses. Les grandes décisions ne se prennent pas toujours là où on le pense. Et là, c'est très clairement que les Américains vont évidemment retourner sur la Lune parce que c'est plus facile, c'est plus près. Mais c'est le Congrès qui décide. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a une caricature dans cette affaire-là qui nous fait penser au cinéma. Et effectivement, on aurait pu se croire dans un film avec des dialogues, peut-être d'Audiard. Vous vous souvenez, il est con comme la Lune, mais chez lui, il n'y a jamais d'éclipse. Bon, finalement, la conclusion de ça, on va le faire en anglais, c'est « The show must go on ». Le spectacle continue.
Joli travail pour cette première chronique, Alain Ciro. Mais il y a la question vache de l'autre chroniqueur, chroniqueuse en l'occurrence, Ève Roger. Ça vous intéresse ?
Alors, pas tellement. Pas tellement parce que l'histoire d'espace m'intéresse assez peu.
Et
d'ailleurs, ça fait 50 ans qu'on parle des premiers pas sur la Lune. Et au fond, à quoi ça aboutit ? Est-ce qu'on y va passer le week-end ? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui y habitent ? Non. Alors, à quoi bon ? À quoi bon encore vouloir aller ailleurs ? Franchement, Alain, je le pose la question sincèrement.
C'est vrai que c'est beaucoup d'argent.
À quoi ça sert d'être allé sur la Lune il y a 50 ans ?
Bien sûr, mais c'est des questions d'enfants. C'est évident. Moi, je réponds toujours dans les écoles quand on me pose la question : à quoi sert la curiosité ? À quoi sert la musique ? À quoi sert la littérature ? À quoi sert le spectacle de Bruno Salomon ?
Effectivement, vous n'allez pas trop loin, Alain. Voilà. Pas que...
Donc, il est assez bavé, assez bavé. Voilà, exactement. Et en fait, on apprend toujours finalement de la curiosité. C'est
mais...
beau.
Merci beaucoup, Alain Ciro. Votre chronique aura-t-elle séduit notre grand arbitre du jour, Bruno Salomon, avec nous pour son nouveau spectacle, Le Show du Futur ? Nous n'allons pas tarder à le découvrir.
Europe 1.
L'équipe sauvage revient dans une poignée de secondes avec cette question qui peut vous intéresser. Est-il possible de transformer votre vieille voiture Critère 18 en une électrique? Notre correspondant dans l'Ouest a découvert un petit garage qui peut vous faire ça pour pas cher, avec le code promo Europe 1. Et puis, la compétition prendra ses droits avec l'entrée en piste d'Ève Roger qui tentera de décrocher le titre de chroniqueuse du jour avec son sujet sur la dysmorphophobie corporelle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Ève?
Le Viagra féminin?
Non, je veux dire pour la chronique, je veux dire. Bref, bon, pour décompresser, on va s'écouter un peu de musique plutôt. Voici les Frangines. Donnez-moi sur Europe.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, hybridation audacieuse des dossiers de l'écran et d'Interville. À mes côtés, Eva Rock, Ève Roger, Alain Sirou et notre invité d'honneur Bruno Salomon pour son nouveau spectacle Show du futur, le premier one-man show d'anticipation. Et si on anticipe, Bruno, dans le futur, comment seront toutes les voitures?
Elles seront.
Il va me donner une couleur.
Attends, je réfléchis à un truc marrant. Elles seront des chaussures. Non,
elles des seront chaussures voitures. Elles seront électriques.
Non,
Bruno,
des chaussures voitures. Ça marche pas.
Eh non, ça ne marche pas. Les voitures seront électriques. On est parti par là. Le problème, c'est que les voitures électriques restent encore globalement chères. Alors, plutôt que d'acheter une voiture électrique, pourquoi ne pas transformer sa vieille voiture thermique en électrique? Bonjour François Coulon.
Bonjour à tous.
Alors, connaissez-vous le rétrofit, les amis? Alors, ça n'a rien de scabreux, c'est une pratique consistant à transformer une vieille voiture thermique en véhicule électrique. En France, on en est au stade des balbutiements, il faut bien le dire. Comme vous avez pu le constater, François Coulon, en Vendée, vous êtes notre correspondant dans l'Ouest, François.
Oui, et là-bas, c'est une antique coccinelle qui a été opérée avec succès. C'est un modèle antédiluvien de 1971, c'est-à-dire né 11 ans avant. Vous, Mathieu, qui a retrouvé une deuxième jeunesse grâce aux mains expertes de Jérémy Quentin, un jeune garagiste rural des Brousilles. Il était un peu écœuré de voir des tonnes de voitures thermiques, essence ou diesel, partir à la casse au profit de véhicules électriques flambant neufs. Alors, il a décidé d'électrifier l'existant en se faisant d'abord la main sur cette fameuse coccinelle. Je vous propose de l'écouter.
Arrêtons le gaspillage, prenons ce qui a déjà été produit et mettons-le à jour pour que ça devienne plus propre et moins polluant. C'est pas compliqué, c'est-à-dire on enlève le moteur thermique, le réservoir et tout ce qui ne sert plus à rien comme l'échappement et ses accessoires et on met un moteur électrique et des batteries. Ça c'est la partie basique. Mais à l'intérieur en fait il faut tout recalculer la répartition des masses pour qu'elle soit identique à l'origine et garder la même puissance que d'origine et brancher tout ça avec l'électronique de véhicule pour que tout fonctionne normalement. C'est réalisable. Elle fonctionne depuis 2 ans et demi maintenant. On a fait 5000 km. Depuis qu'elle est électrique.
Alors, le problème, François Coulon, c'est qu'on a tous des vies un peu chargées. Convertir une voiture thermique en véhicule électrique, ça peut se faire assez vite.
Alors, Jérémy Quentin estime qu'avec sa petite équipe en vitesse de croisière, ça devrait prendre moins d'une semaine avec une opération facturée aux alentours de 15 000 euros. Techniquement, ça roule avec des moteurs électriques américains. Le seul problème est d'ordre juridique parce qu'en France, aujourd'hui, cette pratique n'est pas vraiment légale. Changer la carte grise pour la passer d'un véhicule essence à une voiture électrique, eh bien, c'est tout simplement impossible pour l'instant, car la loi ne le prévoit pas.
Et c'est possible ailleurs, alors ?
Effectivement, le rétrofit existe légalement dans 25 pays sur la planète, notamment aux États-Unis ou chez nos voisins italiens et allemands depuis 2015 et 2017, mais pas en France, car ici, on a une vieille loi de 1954 qui stipule que le changement de moteur d'un véhicule peut le mettre en péril, et donc, sauf dérogation express du constructeur, eh bien, les garagistes ne peuvent pas transformer une voiture thermique en véhicule électrique, c'est ballot. Cela dit, Jérémy Quentin a commencé à être reçu au ministère de l'écologie et du développement durable. Il sent que les choses bougent et qu'un dispositif légal pourrait être mis sur pied relativement rapidement. Il a fait monter Albert de Monaco dans son électrocox. Apparemment, son Altesse a été séduite.
Et les enjeux sont considérables, François.
Oui, ce sont des dizaines de milliers de véhicules qui sont potentiellement transformables en France, ce qui éviterait un énorme gâchis économique et environnemental et pourrait générer ou maintenir 42 000 emplois en 5 ans, selon les chiffres de l'Association française des acteurs de l'industrie du rétro. Ce n'est pas le rétroviseur, c'est le rétro tout court. Pour Jérémy Quentin, il y a aussi dans la balance une dimension non négligeable de lutte contre la désertification rurale. Ce nouveau marché du rétrofit est bien pour être donner un sacré coup de boost aux petits garagistes de nos campagnes, trop souvent contraints à baisser leurs rideaux. Pour terminer, est-ce que vous avez envie de monter à bord de l'électrocox?
Oh oui!
Et ben alors, c'est parti! C'est
parti. Je monte à bord, hop, je mets en route et en avant.
Comme vous l'entendez, c'est très silencieux. Voilà.
Alors c'est très silencieux, mais ça couine, nous dirait notre invité Bruno Salomon, qui est très sensible.
C'est une vieille dame. Elle a 48 ans.
Ne parlez pas comme ça des Maroc, François. Soyez respectueux. Merci beaucoup, François Fillon. Bruno Salomon, c'est la question que la France se pose à présent. Allez-vous, oui ou non, passer au rétrofit vous-même?
Mais très envie. Même l'inverse aussi. Je ferais bien un sèche-cheveux thermique, moi. Ou un rasoir électrique thermique. Non, mais inversé, pourquoi pas inversé?
Pourquoi pas?
Bien sûr, je plaisante. Non, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée.
C'est vrai. C'est étonnant, bon, on n'y est pas pensé.
Pour l'instant, coûteux.
Oui, un peu plus coûteux, 15 000 euros directement. Effectivement, c'est coûteux.
Mais si on y arrive, ce serait...
Si nous le font pour 5 000, on demande à ce garage. Si vous le faites pour 5 000, on passe au rétrofit.
Et en solaire, j'ai vu qu'il y avait des voitures à énergie solaire qui commençaient à se faire.
Pas aller bien vite quand même, Bruno, hein, ouais, énergie solaire.
Pourquoi pas? Et pourquoi pas cumuler les énergies éoliennes sur le toit?
Je sens vous fourmiller l'idée. Vous allez vous concerter avec Alain Sirou à la sortie de cette émission et vous allez inventer le monde de demain.
La voiture du futur.
Bruno Salomon est avec nous jusqu'à 18h pour son nouveau spectacle, Le Show du futur, en tournée dans toute la France et à partir du 23 janvier à Paris au Palais des Glaces. Comme dirait mon ancienne complice Alessandra Sublet, d'ailleurs elle l'a vraiment dit à de nombreux invités, c'est un spectacle que vous pouvez aller voir les yeux fermés. À suivre dans l'équipe sauvage, la dernière ligne droite pour le titre. Qui sera sacré chroniqueur du jour? Alain Sirou vous a bluffé avec ses coulisses de la conquête spatiale vue par Trump, mais Ève Roger ne s'avoue pas vaincue. Vous vous trouvez un défaut physique en réalité inexistant, que vous êtes donc le seul à voir. Vous souffrez peut-être de dysmorphophobie corporelle. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue, 2 heures pour mieux comprendre l'actu sans jamais oublier d'en rire avec Eva Rock, Ève Roger, Alain Sirou et bien sûr notre invité qui dans quelques instants nous dira qui, selon lui, mérite le titre de chroniqueur du jour. Bruno Salomon est avec nous pour son nouveau spectacle Show du futur en tournée dans toute la France et parce que monsieur est aussi désormais écrivain, son roman Les Misophones,
c'est quoi ce petit
édition du Cherche Midi, du nom de ces personnes qui, comme vous Bruno, souffrent d'une hypersensibilité acoustique qui vous rend certains sons du quotidien insupportables.
Acoustique, vous avez dit acoustique.
Je dis acoustique,
quand même.
Je dis ce que je veux. C'est mon émission. Par exemple, ça signifie que vous ne pouvez pas aller au cinéma. Forcément.
Alors si, mais j'évite justement ce genre de personnes.
Mais comment vous voulez
me déplace.
Vous
me déplacez. Voilà, c'est la fuite.
Alors, Bruno Salomon, même là, sur ce livre, vous ne signez pas un témoignage, c'est un roman. Vous mettez en scène des personnages misophones. Il vous est décidément impossible de parler de vous directement.
J'allais pas balancer sur mon frère comme Yann Moix.
Alors
que mon frère. Non, mais c'est. Oui, puis en plus, pour parler de la misophonie, pour bien la comprendre, parce que pour ceux qui ne sont pas atteints, ils pensent tout de suite que c'est dérisoire ou que c'est un caprice. Pour certaines personnes, ça peut être vraiment compliqué. Mais pour vraiment l'intégrer, la mise en situation, c'est la meilleure solution. Et donc, deux personnages atteints de misophonie, la complexité, elle est telle qu'ils sont censés se comprendre, mais ils ne se comprennent pas. Et il y en a un qui va aider l'autre, mais finalement, c'est pas celui qu'on croit qui est de l'autre. Et c'est une sorte de parcours initiatique à deux.
Voilà pourquoi vous vous réfugiez derrière un personnage. Vous êtes un grand timide, à mon sens, Bruno Salomon.
Hypersensible.
C'est
hypersensible. Et délicat.
Extrêmement délicat. Exactement. Et c'est ce que j'aime chez vous. Ce que j'ai découvert d'ailleurs. Attention, oui, c'est ma minute Michel Drucker. Bruno Salomon, en préparant cette émission...
Il vient souvent Michel Drucker chez vous.
Et très souvent, parce qu'il m'a marqué, il a été un peu mon pygmalion, on peut le dire, on l'embrasse, Michel, si tu nous écoutes. Moi qui, de loin, vous imaginez un peu grande gueule, Bruno Salomon, un peu sûr de vous, fier à bras, j'ai découvert au fil des portraits des interviews un homme qui doute. Vous dites, je cite, « J'ai une tendresse infinie pour ceux qui hésitent, qui s'interrogent, qui se remettent en question. Moi, je suis un doutier. »
Je pourrais faire pousser un doutier, c'est ce que j'avais dit. Oui, je suis très touché par les gens qui doutent parce que j'ai l'impression qu'ils ont la sensation de ne pas être arrivés, donc ils vont encore évoluer. Les gens qui sont déjà là, ils sont installés, ils sont sûrs d'eux, souvent ça me met mal à l'aise. Je pense qu'au contraire, ils se trompent, on ne sait jamais.
Et c'est vrai que c'est magnifique de douter, ça a en tout cas donné de très belles chansons.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer.
Anne Sylvestre. C'est une chanson que j'adore et j'ai vu que vous la citiez dans une interview, c'est pour ça que j'ai eu envie de la mettre, parce que c'est une passion commune qu'on a peut-être pour Anne Sylvestre.
Et repris par Vincent Delerme, qui est pas mal d'ailleurs.
Très très bien, la chanson de Vincent Delerme aussi. Parfois on entend des chansons, on se dit tiens, lui il a pas assez douté. Ok. J'espère qu'on n'a pas reconnu. Puisqu'on est dans le doute.
Non, les cons, ça ose tout, c'est
ça qu'on les reconnaît.
Oui, c'est ça qu'on
Puisqu'on est dans le doute et dans la nostalgie, je crois que c'est le moment de parler de Fais pas ci, fais pas ça. Beaucoup de gens vous identifient à votre personnage de Denis Boulet. Vous avez vécu avec ce personnage pendant près de 10 ans.
Et c'est pas facile de s'appeler Boulet, je peux vous le dire. Quand les gens vous faisant leur boulet, boulet.
On vous l'a fait souvent ça. Vous l'avez
non, ça m'arrive.
Est-ce qu'il vous manque ce personnage aujourd'hui?
Vu que j'en fais à foison dans mon spectacle, non, ça me manque pas parce que j'aime bien faire des nouveaux personnages, j'aime bien me renouveler. Mais j'avoue que j'ai passé des moments incroyables avec tous ces comédiens. Et puis 9 ans, c'est avec les enfants et tout. Enfin, c'était vraiment une épopée fantastique pour moi. Ouais. En plus, elle avait du sens cette série. C'était pas uniquement du divertissement. C'est ça que j'aime. Il y avait un fond. C'est des bobos d'un côté, des racks de l'autre. Les bobos fabriquent des réacs, les réacs fabriquent des bobos et tout ça, ça cohabite. Et c'est ça qui est joli.
Est-ce qu'on vous reverra, Bruno Salomon, dans une série? Parce que moi, je vous avais découvert en fait en 2009 dans une série d'M6, qui était une adaptation d'une série britannique, je crois, qui s'appelait La pire semaine de ma vie, dans laquelle vous étiez excellent. Je suis désolé de refaire le Michel Drucker, mais moi, c'est là que je vous ai découvert.
Formidable, en fait. Souvenez-vous. Formidable. Incroyable. Non, d'ailleurs, vous n'êtes pas loin, votre voix un peu comme ça.
Je suis très loin de ça.
Vous avez une voix un peu comme ça. C'est entre Maïté et Michel Drucker. Non, c'est pas trop.
Donc, les séries. Vous avez des projets.
Oui, d'ailleurs, il y a la suite de La pire semaine de ma vie qui est en train de se faire.
Ah, et ben
moi,
voilà,
j'avoue que j'adore. Oui, les Anglais, pour moi, c'est the best of the best. Hein, l'humour anglais, il y a un rythme de dingue. On est vraiment dans du Pierre Richard puissance 10. J'adore. Enfin, c'est excellent.
On parle télé et écran en général, puisque chaque jour, Eva Rock nous fait gagner 17 minutes. Vous savez que selon une étude d'Oxford.
Je croyais que c'était 17 millions.
Non, pas 17 millions, malheureusement. 17 minutes seulement, selon une étude d'Oxford, chaque jour, on perd 17 minutes à gamberger devant l'écran d'accueil de Netflix, toutes ces plateformes qu'on a aujourd'hui, devant l'embarras du choix. Heureusement, maintenant.
Comptez ça vraiment.
Oui, c'est une étude d'Oxford, ouais. S'il vous plaît, que je vous interdis de remettre en cause. Voici Eva Rock pour 17 minutes de gagner.
Eh bien, je vous propose une pépite cet après-midi qui est disponible sur la plateforme MyCanal et qui s'appelle The Loudest Voice.
The Loudest Voice, plutôt.
Eh bien, il n'y a pas de N. Alors, je ne sais pas comment. Il n'y a pas de N, mon cher ami. C'est l'histoire de Roger Ailes, fondateur de Fox News en 1996, la nouvelle chaîne d'info du groupe Murdoch à l'époque. Il a été ancien conseiller politique, notamment pour la Maison-Blanche. Il est producteur déjà quelque peu tyrannique. Et il a des idées très arrêtées sur ce qu'il souhaite faire de Fox News. Donc, pas question de viser un large public. Hein. Fox News doit s'adresser à certains téléspectateurs et voici lesquels.
En gros, la moitié du pays. Tous les autres services d'info, quand on y réfléchit, sur le hertzien, le câble, peu importe, penché à gauche. Au final, ils s'adressent à une élite progressiste. Et c'est bien, parfait. On les laissera tous se disputer cette moitié et on accaparera l'autre moitié.
Et l'autre moitié, ce sont les conservateurs et uniquement les conservateurs, hein, au diable les autres. En moins de 6 mois et sous la présidence de Bush à l'époque, Roger Ailes va parvenir à imposer Fox News en fait, dans le paysage audiovisuel américain. Et puis il y a le 11 septembre qui va sonner en fait, comme l'avènement des chaînes d'info continue, à commencer par Fox News. Parallèlement, lui, le patron, se radicalise. Écoutez son discours quelques heures après les attentats.
Nous, on défendra l'Amérique coûte que coûte. On dira ce qu'il faut dire. On brandira la vérité et on gagnera. On gagnera.
C'est bien une série, mais c'est tellement réaliste qu'on a l'impression de vivre vraiment la scène au moment où ça s'est passé. Alors, l'élection de Barack Obama va pousser Roger Ailes à muscler son discours ultra conservateur. Obama, c'est l'ennemi. Il faut trouver un sauveur. Ce sera Donald Trump. Et la série, donc, c'est à la fois cette histoire, c'est celle de la politique américaine depuis 30 ans et surtout celle des médias où comment Roger Ailes a érigé en modèle journalistique cette phrase absolument incroyable. Les gens ne veulent pas se tenir informés, ils veulent se sentir informés. Et voilà comment cet homme en fait, a balayé d'un revers de la main toute déontologie, alors qu'importe si l'info est fausse, tant qu'elle fait réagir. C'est vraiment l'incarnation du puissant. Il est adipeux, peu prêt à tout pour soumettre ses salariés à ses exigences. Harcelant les femmes, les agressant sexuellement aussi. Et la réussite de la série, elle repose essentiellement sur la performance de Russell Crowe, que l'on devine à peine sous les traits de Roger Ailes. Il est obèse, ignoble, il éructe, il est détestable à souhait. Autour de lui, dans le casting plus joli, Sienna Miller et Naomi Watts.
Mais moi, j'adore Russell Crowe dans Gladiator, il est très joli aussi.
C'est une série incroyable. Vraiment, allez voir ça. C'est sur la plateforme de MyCanal.
Plateforme de
MyCanal. The Loudest Voice.
Emballé, c'est pesé, 17 minutes de gagné. Merci, Eva Rock.
Europe 1.
L'équipe est sauvage, continue et le suspense se fait de plus en plus étouffant. Qui sera élu chroniqueur du jour? Ève Roger coiffera-t-elle sur le fil? Alain Sirou avec son sujet sur la dysmorphophobie, cette maladie dont vous souffrez peut-être si vous trouvez sans raison qu'une partie de votre corps est difforme. Et puis dites-moi en fait, on parle, mais vous avez pensé à faire les courses?
À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette.
Eh oui! Mais Olivier Pouls, notre expert en gastronomie de crise, arrive. Vous saurez quoi passer acheter la supérette pour concocter un repas aux petits oignons qui bluffera votre épouse grâce à... Délice in extremis, bien sûr.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Comme disait Grégoire Margoton à quelques minutes du coup de sifflet final France-Croatie 2018, il y a du chaos dans l'air. Au moment où l'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 entre dans sa phase finale, Eva Rock est là, en spectatrice vicieuse, qui sera élu chroniqueur du jour sous l'œil de notre invité et arbitre Bruno Salomon, venu nous présenter son nouveau spectacle, le show du futur, dont la tournée démarre dans quelques jours. La réponse approche, voici Ève Roger. s'avance vers le micro, tel Roberto Baggio en finale du Mondial 94. Elle est focus sur son objectif. Elle n'a de regard pour personne dans ces moments-là. Je la connais, elle est féroce. Eve, comment vous avez trouvé Eva tout à l'heure?
On aurait magnifique. Dit qu'elle avait bu.
J'ai été trahi par la gentillesse d'Eve Roger. Vous n'avez pas taillé Eva, elle est hors compétition. Eve Roger, parlez-nous plutôt de ce trouble étonnant qu'on appelle donc la dysmorphophobie, c'est ça?
Et oui, c'est donc un mot barbare pour dire une chose très simple, c'est quand on a l'impression d'avoir un défaut physique, mais qu'il est soit minime, soit complètement imaginaire. Alors ça touche plutôt le visage, parce que c'est la chose qu'on voit le plus. Le nez qui serait trop gros, les oreilles trop grandes, peut-être les cheveux trop fins ou trop épais. Le corps, évidemment, aussi trop gros, trop mince, pas assez musclé. Et ce qui différencie cette dysmorphophobie corporelle du complexe normal, on a tous un petit complexe physique, c'est qu'il est obsédant. Et les spécialistes disent qu'on y pense entre 3 et 8 heures par jour, qu'on peut passer 40 fois devant la glace pour le regarder, pour vérifier. Et la conséquence de ça, c'est qu'on ne pense qu'à une chose, c'est à le camoufler et à le gommer. Alors, je vais vous faire entendre Romuald. Romuald, il y a 33 ans. Lui, son problème, c'est son ventre. J'ai vu des photos, je vous promets, on ne voit rien.
Et enfin, son ventre. Il pense qu'il a un gros ventre.
Oui, il pense qu'il a un gros ventre. Et il
mais qu'il n'a pas de ventre.
C'était la question bizarre.
Ça commence là.
On peut imaginer qu'il aimerait bien ne pas en avoir du tout. Et vous allez voir, il passe sa journée à essayer de le camoufler. Écoutez.
Je me débrouille toujours pour avoir un bras devant le ventre, pour être légèrement tourné de côté, pour avoir l'apparence du ventre le plus fin possible. Et je bloque ma respiration quand je me retrouve observé par quelqu'un et j'essaye de rentrer le ventre au maximum. La plupart du temps, dans la journée, j'y pense au moins une dizaine de fois. Dans mon cercle aussi bien professionnel que familial, on me dit que je suis très bien comme je suis et que j'ai vraiment aucun complexe à avoir.
Vous entendez la souffrance, parce que c'est ça aussi la caractéristique, c'est que ça fait terriblement souffrir.
Moi, il y a un moment où je rentre mon ventre, c'est sur la plage quand même. Bruno Salomon, l'été sur la plage, on rentre un peu le ventre quand même quand on se déplace.
Moi, je suis en apnée, hein, tout le temps. Je suis en apnée.
Est-ce que ça touche plutôt les femmes que les hommes?
Et ben en fait, c'est à égalité. On pourrait penser que c'est plutôt les femmes, mais c'est pas les mêmes complexes, c'est pas les mêmes défauts physiques imaginaires. Les femmes, c'est plutôt l'idéal de la masseur, donc c'est plutôt autour du corps. Et les hommes, alors j'ai découvert ça, c'est l'idéal de la musculature. C'est-à-dire qu'ils ne se trouvent jamais suffisamment musclés. Ceux qui sont atteints de ce mal-là.
On n'est pas d'accord avec Bruno, visiblement.
Et puis, évidemment, la taille du pénis, ce qui nous étonne pas.
Alors... Tout ça, on est d'accord avec Bruno.
Moi, je peux me gratter les cheveux sans les mains. Non, mais.
Attendez, s'il vous plaît, mange mental, c'est ça, voilà ça. Alors, je vais vous faire écouter une femme, parce qu'elle, son problème, c'est la mâchoire. Je vous rappelle que c'est un défaut physique imaginaire. Donc, elle a le sentiment que sa mâchoire avance vers l'avant. Et donc, encore une fois, personne ne le voit. Et elle, donc, comment on cache une mâchoire qui avance? Vous allez l'entendre.
Je vais souvent fermer la bouche, donc je vais la cacher comme ça. Et c'est devenu un réflexe.
Quand vous souriez, quand vous riez, vous avez aussi une petite mimique pour cacher cette mâchoire?
Je tire très souvent la langue, bon, du coup, et a priori, voilà, ça me donne un charme que très souvent mon entourage me dit, quand je leur parle de ce complexe-là, ils me disent « Ah non, mais attends, le fait que tu tires la langue tout le temps, c'est trop mignon. »
Donc, alors, ça se soigne, je vous le dis, ça se soigne. Il y a deux choses. Eux se soignent mal parce qu'ils se font opérer. Elle va se faire opérer la mâchoire. Il y a un chirurgien esthétique, ils se font 2, 3, 4 opérations, mais ils ne sont jamais satisfaits puisque ça se passe dans la tête. Donc, la seule chose pour soigner ça, c'est une thérapie comportementale et pour essayer de revenir aux origines de ce mal.
Merci beaucoup Eve Roger. Bruno Salomon, dans le livre que vous nous présentez aujourd'hui, vous évoquez la misophonie, on en parle depuis 16 heures, ce trouble qui consiste à être hypersensible aux petits sons de la vie quotidienne. Est-ce qu'à l'issue de cette chronique, vous vous sentez dysmorphophobe?
Non, mais effectivement, il peut y avoir des sons provoqués par la mâchoire, par exemple, quand vous dites la mâchoire.
Ça y est, non, mais, il va imaginer
gens
des trucs.
Des tics comme ça, mais, et qui peuvent provoquer des sons, ou des gens qui ont des dentiers. Le mec est complexé par son dentier, ça peut arriver.
Non, mais le point commun, c'est l'hypersensibilité, en vrai.
C'est l'hypersensibilité, oui.
Justement, le 13 juillet 2020, vous aurez 50 ans, Bruno Salomon. Je vous l'annonce c'est sympa de me tout rappeler. De go, parce que je pense que vous n'y pensiez plus. Est-ce que c'est un cap que vous appréhendez? Ou alors pas du tout, vous vous en contrefoutez.
C'est le début de la fin. Non, oui, c'est 50 ans, c'est bien.
Vous le vivez bien.
Ouais.
Oui, moi aussi.
50 ans. Il y a une chanson de Jean-Claude Pascal.
Mais
vous connaissez Jean-Claude Pascal? Oui. Ça, vous connaissez? Je m'adresse aux plus âgés. Hein.
Ah, non, mais... Oui, je crois. Bruno Salomon pointe du doigt Alain Siroux.
Parce qu'il avait chanté 40 ans et 50 ans. Justement, une sorte d'épanouissement à 50 ans.
Il est de retour sur scène, en tournée, dans toute la France, avant le Palais des Glaces à Paris à partir du 23 janvier. Bruno Salomon est notre équipier sauvage jusqu'à 18h sur Europe.
Europe 1.
La Ligue des champions des journalistes d'Europe 1 continue avec une rubrique hors compétition, mais fort utile si une fois de plus vous rentrez chez vous sans la moindre idée de recette pour ce soir, en vous disant que vous trouverez bien un truc à décongeler. Non, Delis in extremis, la rubrique qui vous sauve la mise, arrive. Eva, une envie par ces temps de canicule ?
Une choucroute.
Ça tombe sous le sens, à tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage entre dans sa phase finale. Sous l'œil de notre grand arbitre du jour, Bruno Salomon, en tournée dans toute la France avec son spectacle Show du futur à partir du 20 septembre, qui sera élu chroniqueur Europe 1 du jour dans quelques instants ? Le verdict va tomber. Hors micro, certains journalistes comme Nicolas Carreau n'hésitent pas à décrédibiliser leurs concurrents auprès de Bruno, dont la voix comptera triple.
En plus, c'est un type terne, un grenage.
Ne vous laissez pas influencer, Bruno. Réfléchissez bien. En attendant, on s'écoute Camila Cabello, Havana sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Le show du futur, c'est le nom du nouveau spectacle de Bruno Salomon qui part en tournée dans toute la France et qui est notre invité aujourd'hui dans l'équipe est sauvage. Deux heures d'une compétition aussi foutraque que palpitante entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Pour l'instant, sur l'ensemble de la semaine, qui mène la danse ? Nous avons compté les points tout à l'heure dans la rédaction.
Oh,
et sachant que le vote du public compte double, que celui de l'invité compte triple et que le main compte pour un, c'est assez simple finalement.
Lundi c'était Ève Roger 4 points, Axel Osarier 2 points.
C'était 1 point lundi en fait.
Le public c'était 2 points.
C'est non, en fait.
Anne Le Gall, elle a eu 3 points.
Non, ça ne fonctionne pas ton calcul parce que lundi on a compté un seul point pour le public.
Si on garde la règle de Mathieu Noël 1 point, public 2 points, invité 3 points, dès le début.
Bah, ça veut dire qu'on s'est trompé hier.
Oui.
Ouais.
Vous n'avez c'est rien moche. Compris c'est à notre moche. Système de points, c'est pas grave, nous non plus. Je vous ai enregistré parce qu'à un moment j'ai senti qu'on n'allait pas y arriver.
Donc j'ai enregistré. On écoute en permanence dans cette émission.
Même dans la rédaction, hein. Même dans l'open space. Ouais. J'ai appelé Cédric Villani, en gros c'est Ève Roger qui est en tête du championnat juriste d'Europe 1, hein, grosso modo. Alors lui c'est simple, il est hors compétition, on retrouve tout de suite Olivier Pouls, notre expert en gastronomie de crise, pour la rubrique qui vous sauve la mise quand vous avez oublié de faire les courses pour le dîner. Voici Delis in extremis. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour Bruno, bonjour toute l'équipe.
Où êtes-vous donc, où êtes-vous donc cet après-midi, j'ai envie de dire sur l'ORTF, vu votre ton. Où êtes-vous Olivier?
Je poursuis mes pérégrinations bourguignonnes et après être passé par ce mur en eau chaude, je suis dans la région de Chablis aujourd'hui. Tiens, pourquoi me demanderez-vous? Eh ben pour déguster éventuellement quelques vins. Et donc je me suis arrêté au petit marché de Noyères-sur-Serein, joli petit marché avec un producteur de légumes bio, respectueux, tout ce qu'il faut pour se remettre en forme, parce que je vous entendais parler de poids tout à l'heure, et comme je n'ai pas envie de retenir ma respiration sur la plage, j'ai décidé de manger des légumes aujourd'hui.
Ça c'est assez rare pour ceux qui vous connaissent un peu dans la vie, Olivier Pouls. Et donc aujourd'hui, comme on dit dans
légumes
Top Chef,
farcis, quoi.
Des légumes très farcis souvent avec lui. On part aujourd'hui sur un tartare d'aubergine, si je ne m'abuse.
Oui, alors Eva étant la spécialiste du caviar d'aubergine, je ne me risquerai pas à vous donner une recette parce qu'elle réussit mieux que personne, n'est-ce pas ma chère Eva ?
Oui, il y a intérêt.
Voilà, donc moi je vous propose une autre variante, c'est le tartare. Alors en fait, quand je dis tartare, c'est pas exactement ça parce que l'aubergine ne peut pas être mangée totalement crue, parce que figurez-vous que l'aubergine contient une petite toxine qu'on appelle la solanine, qui est une toxine qui est également présente dans la pomme de terre et qui n'est pas digeste. Donc il ne faut pas manger d'aubergine crue.
Sinon,
mais
on décède.
La manger froide.
Qu'est-ce qui se passe si on la mange crue ?
On ne décède pas, mais on est victime de gros ballonnements, ce qui là pour le coup sur la plage est vraiment problématique.
Donc donnez-nous votre recette, Olivier.
Eh bien donc on va cuire notre aubergine, mais on va la cuire à peine de manière à dégrader cette toxine, mais à garder quand même de la constitution de la mâche, parce que dans un tartare, il faut pouvoir mordre. Et une fois encore, si elle est trop cuite, ça donne du caviar d'aubergine, ça n'a pas d'intérêt. Donc on va la mettre au four pendant 25 minutes dans un four à 180 degrés, histoire de la cuire sans la surcuire, en gardant de la texture. Après, on ouvre notre aubergine en deux, on va détailler la chair en petits cubes, comme on le ferait pour un tartare de viande, petit cube d'un centimètre de côté. Et on va travailler notre assaisonnement, qui est à base évidemment d'un jaune d'œuf, comme on met dans le tartare, de capre bien sûr, d'une belle huile d'olive, de quelques gouttes de citron. Alors ça c'est important aussi, parce que vous savez que l'aubergine, qu'est-ce qui se passe quand elle est en contact avec l'air ? Elle noircit, bon point pour Eva.
Un peu bonus.
Vous aurez mis vos capres, votre huile, votre jaune d'œuf. Rajoutez un peu de persil, de ciboulette, une belle cuillère de moutarde aussi pour relever tout ça. Et vous allez bien mélanger, bien enrober vos cubes d'aubergine. Et si vous l'avez bien fait, je vous promets que dans l'assiette, ça donne un trompe-l'œil assez surprenant. Vous avez la mâche, l'impression de manger de la viande, parce que l'aubergine, elle a presque cette texture de viande. Mais il n'y a évidemment aucune protéine contenue là-dedans. C'est idéal, top régime pour la fin de l'été.
Eh bien, merci mille fois Olivier Pouls, et je rappelle à notre invité Bruno Salomon que vous ne pouvez pas voter hélas pour Olivier Pouls qui est hors compétition, évidemment.
Dommage.
Vous l'aurez compris.
Quelle belle imitation.
L'équipe est sauvage, la première émission où l'invité note les journalistes, touche à sa fin, extase de la victoire pour l'un d'entre eux, cruelle déconvenue pour les autres. C'est le scénario tragique qui nous attend dans quelques secondes, sous l'œil complice mais torve du génial Bruno Salomon, de retour sur scène avec un nouveau spectacle, le show du futur, près de chez vous à partir du 20 septembre.
Et qui que ressemble vous pouvez... étrangement à votre émission.
C'est vrai qu'il y a, hein,
vraiment,
y a
des chroniqueurs, il y a des
animateurs,
il y a des sujets dingues avec des aubergines, enfin, il se passe des trucs. Jacques Villera est présent aussi. Il y a tout.
Vous restez avec nous, Bruno Salomon, la grande finale approche.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous aimez l'érudition et l'ouverture sur le monde des soirées théma d'Arte, mais vous aimez aussi les coups bas et les choses trap des ch'tis à Miami. Nous avons, je crois, réussi l'hybridation des deux. Ça s'appelle l'équipe est sauvage. Chaque jour, au service de votre culture G, les journalistes d'Europe 1 se disputent le titre de chroniqueur du jour. Qui sera élu aujourd'hui ? Vous avez voté, même via Twitter et Facebook. Mais nous allons tout d'abord découvrir le vote de notre invité d'honneur, Bruno Salomon, venu nous parler de son nouveau spectacle Show du Futur, en tournée dans toute la France jusqu'au mois de décembre avec un passage au Palais des Glaces à Paris fin janvier. Toutes les dates, de toute façon, on les a mises sur le site europe1.fr. Sans oublier votre livre, Bruno, Les Misophones, vous découvrez peut-être que vous l'êtes. Si, comme Bruno, vous ne supportez pas ces petits bruits du quotidien agaçants, alors attention, Bruno. La responsabilité qui pèse sur vos épaules est absolument écrasante. Je rappelle que votre voix compte triple. Qui mérite, selon vous, de l'emporter aujourd'hui? Ève Roger, Alain Sirou, Axel de Tarlé ou Nicolas Carreau. Si l'un d'entre vous souhaite tenter à ce stade un truc de fou, de dernière minute pour épater Bruno, comme par exemple imiter Eddie Mitchell a cappella, oui Nicolas?
Mais bien cher frère, mais bien cher sœur, reprenez avec moi tout...
Merci Nicolas. Bruno le prend en compte. Il le prend en compte. Alors Bruno, à qui?
On pourrait partir sur une imitation. Enfin, chacun fait sa meilleure imitation.
On pourrait, ça serait aussi
un concept. On pourrait faire ça, un petit vote.
On pourrait, mais je préfère rester sur cette imitation vraiment pourrie.
Si vous voulez.
Allez-y. Ah ouais, vas-y.
C'était le cochon d'Inde.
Waouh.
Ah, effectivement, il s'est doublement humilié. Incroyable. C'est-à-dire, et en deux temps. Alors, à qui offrez-vous votre voix, Bruno Salomon?
Mais c'est terrible de voter là.
C'est terrible, mais c'est votre métier.
Le Black Mirror.
Exactement.
Je vais voter. Alors j'hésite parce que bon.
Déjà, entre qui et qui hésitez-vous déjà?
Entre les quatre.
Quel grand
cœur. Accède de table, j'aime beaucoup. Pardon. On n'a dit pas de blague sur les noms. Ève aussi, j'aime beaucoup. Nicolas. Si, une petite tendresse pour Nicolas, mais j'avoue que Alain m'a séduit parce que peut-être je suis attiré par la science depuis tout petit et puis j'aime bien ses lunettes.
Ce sont les lunettes d'Alain Sirou qui font la différence. Merci 3 beaucoup. Points pour vous, Alain Sirou. C'était le vote de Bruno Salomon. Pour ma part, je vote pour Ève Roger. J'avoue, j'aimerais ne pas voter pour Ève Roger parce qu'elle gagne tout le temps.
Et oui.
Mais malheureusement, c'est son sujet sur la dysmorphophobie et ses témoignages recueillis qui m'ont séduit. Et le moment est venu de découvrir qui vous, chers auditeurs, avez élu chroniqueur du jour.
Mathieu.
Vous votiez via Twitter et Facebook. Eva, que disent les votes?
Mathieu, nous sommes bien d'accord. 3 points attribués par l'invité, 1 point attribué
un
par
point
vous
par
et 2 points par le public qui a voté pour la dysmorphophobie.
Et donc,
voilà l'égalité.
Premier cas d'égalité. Axel de Tarlé salue ses adversaires, ce qui n'est pas le cas de Nicolas Carreau qui visiblement le prend très mal puisqu'il quitte
s'en va. Nicolas Carreau.
Il quitte le studio de manière assez précipitée. Mesdames et messieurs, égalité entre Ève Roger et Alain Sirou. Pour aujourd'hui, c'était la 3e édition de l'équipe est sauvage avec un arbitre en or aujourd'hui, Bruno Salomon, que vous pourrez applaudir dans toute la France dès le 20 septembre avec son nouveau spectacle Show du Futur et que vous pouvez lire en attendant puisqu'il signe les Misophones aux éditions du Cherche Midi. Bruno, ne dites rien, je sais ce que vous vous dites après ces deux heures.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.
Ça au contraire, je renais.
Voilà, c'est une renaissance pour vous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Bruno.
Merci de votre accueil.
Un grand merci donc à Bruno, mais également à la Dream Team de la rédaction d'Europe 1, Ève Roger, Alain Sirou, Nicolas Carreau et Axel de Tarlé, les mauvais perdants. Ma complice, Eva Rock. L'équipe est sauvage revient demain à 16h.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.